Bonsoir à toutes et à tous. Alors on va essayer de réfléchir ensemble ce soir sur le thème de la Matzah en préparation de Pessah. Vous savez que le soir de Pessah, on a une mitzvah de manger la Matzah, le 15 Nissan. C'est une mitzvah d'Oraïta, une mitzvah obligée pour tous les juifs, hommes et femmes, de manger donc la Matzah le soir de Pessah. Pourquoi est-ce qu'on la mange? D'après, si on regarde littéralement dans le texte, on mange la matzah le soir de Pessah parce que les béné Israël n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Comme ça, si vous lisez dans le texte, comme ça c'est marqué. Mais de toute façon, nous on a un problème parce que comme la Torah elle a demandé que pendant 8 jours, on ne mange pas de chametz, donc on a bien expliqué la semaine dernière qu'est-ce que c'est le chametz. Donc puisque la Torah a demandé qu'on ne mange pas de chametz pendant 8 jours, donc de toute façon, on aurait été obligé de manger de la matzah. Puisque la matzah, c'est un chametz qui n'est pas chametz. C'est-à-dire une pâte, avant qu'elle devienne chametz, c'est de la matzah. Donc quand la Torah elle m'a dit, tu ne mangeras pas de chametz pendant 8 jours, et la Torah m'a dit, le 15 Nissan, tu mangeras de la matzah, ben, je dis, c'est évident, parce que de toute façon, je ne peux pas manger du chametz. On ne va pas faire une matzah de pommes de terre. En plus, il dit qu'on mange cette matzah parce que cette matzah, elle n'a pas eu le temps de lever. Mais nous, on sait que quand c'est marqué qu'il y a deux mitzvot assez, il y a deux mitzvot positives, il y a plusieurs mitzvot négatives, plusieurs fois la Torah a donné des interdits, et ces interdits, on a dit déjà un chiyuv karet, une punition de retranchement. Il n'y a que deux mitzvot positives où la Torah a dit fais quelque chose et qui sont punis de retranchement. C'est quoi? Celui qui n'a pas fait la brit mila toute sa vie, il n'a pas fait la brit mila, il est retranché du peuple d'Israël, ou celui qui n'a pas mangé la matzah le soir de Pessah. C'est bizarre de comparer deux choses, a priori, qui ont l'air quand même moins fortes. Celui qui n'a jamais fait la brit mila, donc il n'est pas rentré dans l'alliance avec Hachem, alors on peut comprendre, il ne fait pas partie du peuple d'Israël, il est complètement exclu. Mais quelqu'un qui n'a pas mangé la matzah le soir de Pessah, si on dit que la mitzvah de matzah, c'est seulement une commémoration de ce qui s'est passé à l'époque, alors, on ne comprend pas comment est-ce qu'il peut y avoir une punition tellement importante, tellement grave. Alors, je vous avais expliqué ce qu'avait dit le Horachaz, que nous, on croit qu'on mange la matzah parce que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de lever la pâte. Alors, il avait expliqué le Horachaz, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que on voit que Avraham Avinu, il a mangé la matzah. Il a fait la mitzvah de matzah. Il a fait toutes les mitzvot, Avraham Avinu. Mais lui, il a reçu par prophétie. Donc, comment est-ce qu'Avraham Avinu, il a pu manger la matzah en souvenir de la sortie d'Égypte? Parce qu'il n'est pas sorti d'Égypte. Sauf si vraiment vous avez vraiment embrouillé le film, d'accord. Mais a priori, vous savez qu'Abraham il est venu avant, donc et que les béné Israël sont les descendants de Israël, qui est le petit-fils d'Abraham. Donc automatiquement, Abraham n'est pas sorti d'Égypte. Alors comment est-ce que Abraham a pu manger la matzah en souvenir de la sortie d'Égypte? Non. On sait que la Torah, elle a été écrite par Dieu 2000 ans avant la création du monde. Donc 2000 ans avant de créer le monde, Dieu il a écrit la Torah. Et à partir de la Torah, il a créé le monde et l'homme. Maintenant, si la Torah elle a été écrite 2000 ans avant le monde, il y a plusieurs façons de comprendre. Soit on peut imaginer qu'il n'y avait pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire dans la Torah 2000 ans avant le monde. Il y a juste 613 mitzvot. Soit on peut dire qu'il y a aussi l'histoire qui est écrite dans la Torah. D'accord? Et ensuite, cette histoire, elle se met en place. Maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre, et comme ça, il explique le Rav Simcha Dussel, Hachem, il a un message extraordinaire à transmettre qui s'appelle la matzah. On va essayer de voir un petit peu la teneur de ce message. Et pour un petit peu donner de la valeur à ce message, pour marquer l'histoire et le temps avec ce message, il a organisé la sortie d'Égypte. Ça veut dire que le fait qu'on mange la matzah, c'est pas circonstanciel. Puisque les bénis Israël n'ont pas eu le temps de lever la pâte, donc automatiquement, on mange la matzah en souvenir. Non. C'est que Akadosh Baruch Hu les a fait sortir en vitesse pour qu'ils aient pas le temps de lever la pâte et qu'ils mangent la matzah. Pourquoi? Parce que l'enseignement de la matzah, il est préliminaire à l'événement sorti d'Égypte. Mais Dieu, il a organisé l'événement sorti d'Égypte pour transmettre le message de la matzah. Maintenant, nous, on va essayer de comprendre le message de la matzah et pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a tenu à mettre une mise en scène tellement extraordinaire. Je sais pas si vous vous rendez compte, la masse de la mise en scène, d'accord, c'est énorme, c'est 100 fois Hollywood, d'accord. D'accord? Tu prends la plus grande civilisation, tu la jettes par terre, tu détruis tous les hommes, tu prends toutes les richesses, tu fais les 10 plaies d'Égypte pendant toute une année avec des millions de miracles. Pourquoi? Pour enseigner la mitzvah de Matzah. Alors le principe, il est simple. Si on a bien compris à travers le cours du Hametz, je m'excuse pour les gens qui n'étaient pas là, mais ils peuvent refaire le calcul rétroactivement par déduction inverse. Puisque la Matzah, c'est le contraire du Hametz. Le Hametz, on a dit que c'est le chisaron, c'est le manque. C'est le vide, c'est le manque, c'est le baratin, c'est l'yetzerara, c'est l'emprise du temps. Donc le contraire, la Matzah, ça va être la shlemout, ce qui est entier. Quelle différence entre Hametz et Matzah quand vous l'écrivez? Quelle différence? Bah, le même, c'est le même. D'accord? Le tzadik, il y est aussi. Qu'est-ce qui reste? Le chet et le hé. Le hé dans Matzah et le chet dans Hametz. Ça veut dire qu'il y a une très petite différence entre Hametz et Matzah. Je vous avais déjà dit, dans la réalité, une pâte non travaillée, à partir de 18 minutes, elle devient Hametz. Avant ça, elle est Matzah. Donc à 17 minutes 59, c'est de la Matzah. À 18 minutes 01, c'est du Hametz. C'est très fin. Pour vous dire que dans la vie aussi, dans la vie, la réalité, c'est-à-dire la vérité et le mensonge, ils sont... L'amour et la haine, la fidélité, l'infidélité, c'est des nuances. Vous comprenez, les gens, ils croient que c'est... C'est les enfants qui croient que c'est comme ça. Bam, bam. Il y a blanc, il y a noir. Oh, il y a toute une série de gris. Toute une série de nuances de gris. Il dit, c'est pareil. Si quelqu'un doit apprendre, comment est-ce que la Torah, elle demande d'être attentionné, d'être minutieux dans les choses, c'est parce que la distinction, elle est très très fine. Comme il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a l'ambiance de la loi. Par exemple, je dis, il y a des choses, bon, c'est permis par la halakha, mais ça se fait pas. Alors, il y a des gens qui vont dire, bon, bah, si permis, c'est permis. Tu dis, bon, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Par exemple, tu peux enfoncer la tête d'un type dans un business, d'après la halakha. Mais t'as rien fait, qui est pas al-pi halakha. Tu dis, mais ça se fait pas. Ah, tu dis, ah, j'ai regardé, je crois, en haut, c'est pas marqué. Par exemple, tu passes dans la rue, il y a un type, il vient chez toi, il te dit, je cherche une maison à louer. Tu dis, ah bah tiens, justement, là, il y a un panneau à louer. Oh, je ne l'avais pas vu. Oh. Le type, il va, il signe. Il va à l'agence, il signe la maison. Tu viens le voir le lendemain, il dit, t'as loué. Oui, oui. Combien t'as loué? Il dit, bah, j'ai loué 4000 francs. 4000 francs, c'est bien. Alors, tu me dois 4000 francs. Il dit, pourquoi je te dois 4000 francs? Ben, service d'agence. J'ai trouvé un appartement. Tu dis, attends, t'as levé la main. Oh, c'est l'autre, il a appuyé sur l'ordinateur, c'est pareil. Tu me dois 4000 francs. On va tous les deux dans un Beit Din, on va se bagarrer, tu vas me donner les 4000 francs. Je t'ai donné un appartement, je t'ai donné une adresse, tu me payes 4000 francs. Combien on paye? Un mois de loyer, c'est comme ça, c'est établi. Toi, tu dis, mais attends, tu as bien vu que j'étais perdu dans la rue, tu as bien vu que j'avais besoin. Tu as profité de... C'est vrai. Tu as profité que je ne savais pas aussi. C'est vrai. Ah ben, nul n'est censé ignorer la loi. Hein. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui sont permises d'après la halakha. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est un peu... Ah, je vois pas où est le problème, moi. Ça se fait pas. Tu profites que l'autre, il est nia, tu lui enfonces la... Tu lui prends la tête comme ça, tu lui mets dans le plat, tu lui dis, alors c'est bon. Dis merci. C'est pas possible. Il s'est marré. Si quelqu'un comprend que la shlemout, le fait que quelqu'un, il arrive à l'entité, et c'est ça la définition de la matzah. Pourquoi? Parce que la matzah, c'est ce qui ne contient pas de chametz. Comme la lumière, c'est quand il n'y a pas d'obscurité. Donc l'intelligence, c'est comme il n'y a pas de bêtises. L'indépendance intellectuelle, c'est quand il n'y a pas d'intérêt. Donc à chaque fois, vous trouvez que ce monde-ci, il fonctionne dans un axiome d'équilibre entre le bien et le mal, comme on l'a vu dans le cours de Pourim. Oui, il y a la place du bien et la place du mal. Après, on a expliqué avec le Hametz, qu'est-ce que c'est le mal. Donc maintenant, quand on va expliquer qu'est-ce que c'est le bien, ça sera automatiquement l'absence du mal. Donc ça veut dire que la construction de l'être... pour atteindre l'entité, elle passe automatiquement par le fait qu'on se débarrasse du mal. Alors la Torah, elle a dit qu'on ne peut pas faire la matzah tant qu'on n'a pas détruit le chametz. Donc d'abord on cherche le chametz, on le trouve, on le détermine, on le prend, on le brûle. Maintenant, l'absence de chametz, elle doit produire la matzah. Non, parce qu'il y a aussi des lois pour fabriquer la matzah. C'est exactement pareil. Un homme, il doit éviter d'être nul et il doit être bon. Maintenant, un bon, c'est pas seulement quelqu'un qui a évité d'être nul. Qui range les outils tout à l'heure. Oui. C'est quelqu'un qui a construit son être intérieur, c'est pareil. Comme c'est marqué, Sourmera ve asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Une personne, elle doit se construire et à part ça, elle doit éviter de se détruire. Donc perpétuellement, un homme, il est dans un combat qui est double. D'un côté, il doit éviter le chametz de la vie. D'un autre côté, il doit fabriquer la matzah de la vie. Qui c'est la matzah? Lui. C'est lui la matzah. Pour ça qu'on a vu qu'il y a plusieurs éléments, vous allez voir qu'ils vont rentrer en ligne de compte et qui sont toujours liés à la notion de shlemout, le fait qu'un homme, il atteint ce qu'on appelle être entier, par exemple. Une des symboliques de la matzah, c'est quoi? C'est que dans la hanava, dans la modestie, il dit le rafrim de Volozhin, c'est quoi la modestie? Amakir et mekomo, c'est celui qui connaît sa place. La Gemara, elle dit le golem, ça veut dire le contraire du Talmid Racham. Talmid Racham, c'est le sage. Le golem, c'est, si on traduisait littéralement, ça serait un petit peu une espèce de masse de terre glaise. Vous voyez, en français, on dit quelqu'un qui est mal démoulé. Il y a des gens qui sont mal démoulés. S'ils ne sont pas finis, on a mis de la terre comme ça, on a fait une forme. Oui, une espèce d'homme comme ça, mais bon, il marche, il parle, mais... C'est-à-dire... Quand on parle d'un sage, on ne parle pas de quelqu'un qui a mangé 3 CD-ROM de Torah. On parle de quelqu'un qui vit dans sa finesse et dans son intelligence, dans son intelligence de vie selon la Torah. Donc le golem, la Gemara, elle dit par exemple, il parle quand on ne lui donne pas la parole. Il dit des bêtises. Oui. Il parle à la place des autres. La hanava, c'est makir et mekomo. Dans la notion de shlemout, il faut arriver à comprendre que les paysages du monde, c'est comme un puzzle. Dans le puzzle, il y a des centaines de pièces. Chaque pièce a sa place. Chacun d'entre nous, il doit apprendre à se connaître. D'accord? Ni à être trop petit, ni à être trop grand. C'est ça la hanava, la modestie. De se connaître, de savoir qui on est et de tenir sa place. Maintenant, si ta place est grande, ton rôle est de tenir une grande place. Si ta place est petite, ton rôle est de tenir une petite place. Tu dois ni tenir une grande place alors que tu es petit, ni tenir une petite place alors que tu es grand. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot. Bimkom shen ish. Ishtadel, yot ish. Si c'est tu arrives dans un endroit, il n'y a pas d'homme. Eh ben, sois un homme. Tu vas dire, oh non, par modestie, c'est une modestie mal placée. Est-ce que vous comprenez? C'est comme tu sais très bien nager, il y a un type qui se noie. Alors tu dis, ouais, mais si je plonge pour le sauver, tout le monde va dire, oh le héros, alors je plonge pas. Et l'autre, il meurt. C'est ton rôle, vas-y. Alors ça s'appelle la shlemout. À l'intérieur de la personne, l'entité à l'intérieur de la personne, c'est quoi? C'est que la personne apprenne à se connaître. Souvent, après les cours, les gens ils disent, bon, c'est intéressant, mais c'est un peu théorique, parce que vous parlez de se connaître, de savoir qui on est. Mais comment on sait qui on est? Comment on sait? Mais c'est très simple. Comment vous savez qui sont les autres? Ça, pour ça, Blaylara, vous écrivez des parachutes. Hein. Alors lui, je peux dire, il est comme ça. Mais pour soi-même, comment ça se fait? Ben, c'est très simple. Parce que l'autre, on le regarde vivre. Donc si tu veux savoir qui tu es, c'est très simple, t'as qu'à te regarder vivre. Ce qu'on appelle la projection ou l'introspection. L'introspection, c'est de l'intérieur, la projection, c'est de l'extérieur. Vous vous mettez au-dessus de vous-même, comme ça. Comme si vous mettez une caméra au-dessus de vous, et vous vous regardez vivre. Alors vous dites, tiens, je réagis comme ça. Oh, bah tiens, je réagis comme ça. Pas ce que je crois, pas ce que je voudrais, ce que je suis, comment je suis. Je vais arrêter, pas de baratin. Par exemple, quelqu'un dit, non, je suis pas nerveux. Ah, t'es nerveux? Arrête. Alors, il attend que les autres lui disent. Et il se vexe. Pourquoi? Parce qu'il a un rêve intérieur et une réalité extérieure. Maintenant, écoute, si tu dis, écoute, imagine que les réprimandes des autres, c'est pas des reproches, c'est des éclairages. J'ai allumé la lumière. Comprenez ou non? Tu dis que t'es bon en orthographe. Mais t'as jamais relu tes copies. C'est vrai? Eh ben, relis. C'est marrant, il y a du bleu au milieu du rouge. Ben oui, le rouge, c'est les fautes. T'as une grosse tache rouge avec quelques petits points bleus. C'est pareil. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? La shlemout en soi-même, il apprend à se connaître. Il se regarde vivre et au fur et à mesure, il le dit à personne, c'est pas la peine. Ni une thérapie, ni un truc. Ça, c'est toi et toi. T'as ton petit cahier. tu marques. Tiens, je remarque que dans telle situation, je craque. Dans celle-là, j'arrive à donner une réalité à mon être. Ah, ici, j'aime pas tellement quand on me regarde comme ça. J'aime pas quand on dit ça. T'apprends à te connaître. Maintenant, en fonction, regardez bien, de l'analyse de ton comportement, tu vas te faire un portrait de la projection que tu es. Et la projection que tu es, c'est la projection de ce que tu es à l'intérieur. Donc, tu vas fabriquer, comme par sonar, oui, c'est-à-dire un renvoi de message, un portrait de ton intériorité. Tu sais qui tu es. Ça s'appelle makir et mekomo. Ça peut prendre un peu de temps, surtout quand on n'a pas commencé. Oui. Mais celui qui a commencé, comme quand il visite une région inexplorée de l'Amazonie, eh ben, au fur et à mesure, il faut le savoir, plus il en a visité, eh ben, moins il en reste à découvrir. D'accord ? Mais malheureusement, les gens, c'est pour ça que j'ai toujours dit, je ne sais pas pourquoi on fait des cours aux gens, parce que les gens ont toutes les qualités. Le problème, c'est qu'ils ne les appliquent pas aux autres, ils les appliquent à eux-mêmes. Par exemple, la Torah a dit, il faut juger positivement l'autre. Juger l'autre positivement. C'est un grand travail sur soi. Mais vous n'avez pas remarqué que pour soi-même, on y arrive très bien. Donc si on y arrive sur soi, il faut juste inverser la tendance. Il faut être intransigeant avec soi-même et tolérant avec les autres. Tu vas dire, moi j'arrive pas à être tolérant, j'arrive pas. Mais avec toi, t'arrives. La preuve, tu supportes ta bêtise jusqu'à aujourd'hui, non? Ça te dérange pas? T'es Allah, Allah, pas Allah, couler dans le béton, couler comme ça, couler. Tu dis, ça va. Que des reproches. Eh ben, donne-moi autre chose. Quelqu'un au fur et à mesure qui va apprendre à se connaître, donc peut-être qu'il va savoir qui il est, peut-être qu'il va poser les vrais problèmes, peut-être qu'il va aborder les vraies solutions, et il va voir que ça avance. Qu'est-ce qu'il a atteint ? Il a atteint la shlemout dans la connaissance de lui-même. C'est l'entité dans la connaissance de lui-même. Comme une matzah, elle est là, la matzah, elle est là. Tu fais ce que tu veux, la matzah, elle ne dépasse pas ça, elle est épaisse comme ça, c'est tout. Tu casses, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de surprise. Il y a des gâteaux, tu ne sais pas. Tu as un gâteau, tu as une couche, deux couches, trois couches. Bon, tu as des fraises, tu as de la crème. Tu sais, il y a des gâteaux, tu ne sais pas ce que c'est. Bon, des fois, tu dis, il y a une belle crème, tu ouvres à l'intérieur. Referme le gâteau, s'il te plaît. Vous comprenez ? Quand il y a beaucoup de crème, il faut se méfier. Hein ? La matzah, il n'y a rien à cacher, mon frère. C'est la même matière à l'extérieur et à l'intérieur. Tu casses, tu trouves la même chose que dedans. Alors c'est pareil, toi tu te demandes, est-ce que je ne suis pas un gros gâteau à la crème ? Avec une couche comme ça de baratin pour effacer la sécheresse du biscuit. Ça s'appelle la connaissance de soi. Enseignement de la matzah. Deuxième enseignement, la shlemout, le fait de cette entité, mais dans l'équilibre. Si on dit que la matzah, donc c'est l'absence de négation, parce que c'est l'absence, c'est positif, on a enlevé tout le chametz. Mais aussi la matzah, c'est ce travail perpétuel. Comme j'ai expliqué, que d'après la halakha, une pâte, tant que vous la travaillez, elle ne devient pas chametz. Vous pouvez travailler une pâte pendant 10 ans, elle n'est pas chametz. Tu dis, c'est pas possible, ça fait plus de 18 minutes, ça fait plus de 18 ans. Et bien, si vous n'arrêtez pas de travailler la pâte, elle n'est pas chametz. Ici, c'est pareil. La joie, on a déjà expliqué plusieurs fois que la joie, c'est un cycle. Il ne faut jamais arrêter le cycle. Alors, en français, on appelle ça perpétuel mouvement. Tu n'arrêtes pas le mouvement. C'est quoi ? Objectif, moyen, résultat. Les résultats me donnent envie d'atteindre un autre objectif. Objectif, moyen, résultat. Objectif, moyen, résultat. Jamais, jamais, jamais. Jamais tu t'arrêtes. Objectif à court terme, objectif à long terme. Je veux terminer ce livre, je veux faire telle mitzvah. Je veux atteindre la communication avec mon mari. C'est un peu plus loin là-bas. Je veux atteindre la solidarité dans mon couple. Je veux atteindre la confiance avec mes amis. C'est plus long. Je vais atteindre la proximité avec Hachem. C'est plus long. Des projets à court terme, des projets à long terme. Il faut toujours avoir des projets. Les gens qui n'ont pas de projet, ils ont commencé à mourir. C'est quoi un mort ? Un mort, c'est celui qui n'a pas de projet. Quel est ton projet ? Ben, là où je suis, je reste. C'est connu que la position du mort, elle est souvent statique. La shlemout dans l'équilibre, quelqu'un qui est en équilibre, c'est incroyable à dire, mais c'est comme ça, c'est l'inverse du physique. L'équilibre intérieur, il dépend du mouvement. Et l'équilibre extérieur, il dépend de l'immobilité. Celui qui est immobile, il est en équilibre dans le monde physique. Et celui qui est en mouvement, il est en équilibre dans le monde psychologique. Par contre, les gens qui s'arrêtent dans le monde psychologique, ils commencent à être déséquilibrés. Par exemple, quelqu'un, il a une tristesse. Alors, il dit, je suis très triste. Il commence à, je suis plus triste que lui, je suis plus triste qu'elle, je suis plus triste que tout le monde. Je suis la tristesse. Ça y est, il a arrêté. Il a arrêté la machine. Normalement, problème, solution. Ça s'arrête jamais. C'est une dynamo. Vous comprenez ou non? Ça s'appelle perpétuer le mouvement. T'arrêtes pas le mouvement. T'as un problème là, tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Regardez l'eau quand elle descend de la montagne. Elle rencontre des rochers, elle rencontre des trous, elle rencontre de la terre, elle rencontre des alluvions, elle rencontre des arbres. Et elle avance. Faut pas s'arrêter. Tu t'arrêtes pas, t'avances. Ça s'appelle la schlemout. La schlemout dans l'équilibre, c'est que quelqu'un, entre eux, il est perpétuellement entre eux, une idée et une réalisation. Une ambition, une réalisation. Parce que sinon, il va être toujours entre une idée et une frustration. Il cumule les frustrations, il explose. Pas d'équilibre. Après, il faut justifier la frustration. Alors, revendication, reproche, rancune, vengeance. Ce sont les dossiers qui te permettent de justifier ton immobilisme. La Torah, elle dit, mais quelle question, quel problème, quel souci, quelle angoisse. Avance. Non, mais c'est de sa faute, il m'a expliqué, mon psy. Avance. T'arrêtes pas, vas-y. Moins tu t'arrêtes, moins il y a de traces. Ça, c'est quoi? C'est qu'il y a un mouvement à l'intérieur. Rappelez-vous toujours cette image. Je pétris la matzah, j'arrête jamais de pétrir. Attention les gens qui s'arrêtent de pétrir. On l'a expliqué la semaine dernière. Quand tu t'arrêtes de pétrir, le hametz, l'angoisse, les nerfs, la flemme, la rancune, le malaise, le complexe, tout ça c'est quoi? C'est le hametz qui monte à l'intérieur. Mais celui qui est occupé, il bouge, il produit. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il avance. Ça aussi, c'est l'enseignement de la matzah. Troisième enseignement, c'est que la personne, elle est entière dans sa tête. C'est shlemout, parce qu'on l'a dit, avec soi-même. Après, il y a une shlemout, il y a avec le monde, dans la joie. Maintenant, il y a une équation entre moi et le monde. C'est une troisième équilibre. C'est quoi ça? Ce qu'on avait un petit peu schématisé cette année, mais qu'on n'avait pas dans le cours de l'année dernière, pour ceux qui écoutaient la cassette, c'est, enfin, en tout cas, moi, je le sais, parce que je ne l'avais pas dans la tête, c'est un axiome simple qu'il faut avoir en tête. Je veux cela. Je, c'est le monde intérieur. Cela, c'est la proposition extérieure. Veux, c'est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ce que les Chachamim appellent Toro Kebaro. Un homme, il doit être intérieur comme extérieur. Pareil. D'où on apprend? On apprend du Aaron HaKodesh. Le Aaron HaKodesh, c'était l'armoire sainte dans laquelle on mettait les tables de la loi. D'accord? Donc, la Torah, elle dit que c'était une boîte en bois qui contenait une boîte en or et qui elle-même était contenue dans une boîte en or. Donc face externe, or. Face interne, or. Au milieu, bois. Et ça, la Gemara, elle dit, ça c'est l'exemple du Talmid Chacham. Un sage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en bois. Il est en bois. Il a un corps, comme tout le monde. On est tous des hommes. Il a un corps. Mais l'intériorité, c'est de l'or. L'extérieur, c'est de l'or. Il a fait le contact entre le monde intérieur et le monde extérieur. Toro Kebaro. Il est pareil. Il est construit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Il est perpétuellement en équation avec ce qu'Hachem lui propose, avec ce qui est en face de lui. Alors ça, on avait défini dans une notion qui s'appelle le fait que tu acceptes les données qu'Hachem t'a données. Toutes les données de la vie, c'est pas la peine de discuter. Vous savez, les gens ils se demandent pourquoi je suis une fille, pourquoi je suis pas riche, pourquoi j'ai épousé celui-là, pourquoi j'ai un nez tordu. T'occupes pas de ça. C'est inintéressant. Tout ça, c'est des outils que Hachem t'a donné. Maintenant, les outils, ce qui compte, c'est que tu les utilises bien. Regarde. Victor Hugo, il écrivait à la plume. Il a écrit 30 000 pages. Toi, t'as un stylo feutre. T'arrives même pas à écrire une demi-page. Tu vois bien que c'est pas une question de matériel. Maintenant, ce qu'on te demande, c'est de devenir. La première règle pour devenir, c'est d'accepter les données. Faut pas commencer à discuter les données. Les gens, il joue le ballon, ça c'est comme au football. Il dit, ah, j'aime pas ce ballon, j'aime pas ce terrain, j'aime pas la couleur, j'aime pas la forme, j'aime pas les pubs. Attends, tu peux jouer ton match s'il te plaît? Avance. C'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des données. Ces données, c'est inintéressant de discuter. D'être en équation avec ces données, d'accepter sa famille, d'accepter son corps. Il y a beaucoup de gens, ils passent les trois quarts de leur vie à refuser leur corps. Weight Watchers, liposuction. Pourquoi ? J'aime pas mon corps, j'aime pas, mais je me regarde dans la glace. Mais avec qui tu compares ? Avec qui ? Bon, ben, tu sais, les magazines. Quel magazine ? C'est les gens qui meurent de malnutrition, là. Comment ils appellent ça ? Les mannequins ? Anorexiques. Il faut être anorexique pour être mannequin aujourd'hui. C'est pas une comparaison. Parce qu'elle, elle n'est pas elle-même. Maintenant, toi, tu voudrais être comme elle, pas elle-même. Donc, t'es pas toi-même, tu finiras jamais. Sois toi-même ! Abotai, l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Qui c'est qui l'a dit ? Ravioli, d'accord. Donc, ah ben oui. Donc, qu'est-ce que t'es en train de te faire un souci, une angoisse, ouais. D'ailleurs, même ton nutritionniste, il t'a dit, vous savez, monsieur, vous savez, madame, le jour où vous serez bien dans votre peau, vous arrêterez de grossir. C'est normal, puisque la Torah, elle te dit existe. Existe, ça veut dire réalise-toi dans le monde. Comment quelqu'un grossit ? Parce que le d'exister comme ça, il existe comme ça. Il fait comme ça. C'est vrai. Ça s'appelle la boulimie. Il se réalise géographiquement. Tu veux te réaliser géographiquement ? Achète une boutique, fais un doctorat, apprends le Talmud. Tu te réalises géographiquement. Là, tu dis, ouais, mais c'est plus facile comme ça que comme ça. Fais comme ça. Existe au lieu de inister. Genre. Et ça, c'est quoi ? C'est que toi, tu es en équilibre avec le monde extérieur. Après, la Torah te demande aussi un enseignement de la Matzah, d'être entier avec les autres. C'est plus compliqué ça déjà. Comme je vous ai déjà expliqué quelques centaines de milliers de fois dans ce cours, le problème, c'est qu'on est tous différents. On est vraiment différents. Les gens qui font pas attention à ça parce qu'ils pensent qu'on est tous, vous savez, les blagues là, genre citoyens du monde, mondialisme, on a tous la même religion, Nike, Jordan, ça. Mais si quelqu'un vraiment il veut regarder, tant que le contact est superficiel, on ne se rend pas très bien compte. Mais quand le contact commence à devenir un petit peu plus proche, parce qu'il y a une confrontation de couple, une confrontation d'amis, une confrontation de business, d'un seul coup, les différences, elles sortent comme ça. Comprenez ou non ? Par exemple, dans le business, les chachamim disent toujours « fais un contrat ». « Fais un contrat ! Fais un contrat ! Mais non, on est des frères, tu es comme mon frère, tu es mon sang, tu es ma chair, tu es ma... » Fais un contrat ! T'as pas confiance ? Qu'est-ce que tu risques ? Tu sais, on va être des hamorim. On fait ce que la Torah l'a demandé. Ils ont dit, fais un contrat. Voilà. Toi, t'as mis 50 francs. Moi, j'ai mis 70 francs. On fait un contrat. Je t'en prie. Fais un contrat. Ah, maintenant, on est à 5 millions de francs et 19 millions de francs. Alors là, tu dis, je te connais, toi. D'abord, c'est moi qui a fait tout le boulot. Moi. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Oh, t'as changé de langage, tu me regardes plus avec la même tête. Depuis que t'es revenu de la banque, t'as une autre tête. Tu me parles comme un employé, je croyais qu'on était associés, j'étais ton frère, j'étais ta sœur. Il dit, ça existe les amputations. Fais un contrat. C'est dur de faire un avec les autres, toujours quand on parle de faire un, parce que shalom, c'est la paix, shalom, c'est entier. D'être l'un à côté de l'autre, c'est pas difficile. Tu te mets dans le métro, par exemple, on est tous béchalom. Une boîte de nuit, on est tous béchalom. Ouais. Non, béchalom, c'est quand deux personnes qui sont différentes, elles se décident à faire un. C'est la différence entre une paire et un couple. Une paire, c'est deux morceaux. Un couple, c'est un seul morceau. Maintenant, on peut faire des paires avec n'importe qui. Donc, quand la Torah te dit être béchalom, ça veut dire à l'intérieur. Alors, tu dis maintenant, un enseignement de la Matzah, que je dois être béchalom avec l'autre. Ça veut dire quoi ? Je dois être entier avec l'autre. Alors ça, il faut trouver toutes les connexions qui existent. C'est comme l'ordinateur. Ouais, tant que vous n'avez pas tout branché, ça ne marchera pas. Il y a une connexion qui s'appelle respect de l'autre. Il y a une connexion qui s'appelle amour de l'autre. Il y a une connexion qui s'appelle langage commun. Il y a une connexion qui s'appelle droit d'écoute. Il y a une connexion qui s'appelle... Et il y a beaucoup de connexions. Maintenant, il manque une connexion. Tu dis, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Tu peux mourir. Si tu n'as pas branché l'écran, tu peux mourir. Il n'y aura rien sur l'écran. Et tu meurs. Tu dis, mais je suis prêt à mourir pour l'ordinateur. T'as pas besoin de mourir. Branche l'écran. C'est quoi branche l'écran ? Ça veut dire qu'on voit sur ta figure qu'est-ce que t'as à dire. Sois toi-même. Branche l'écran. Comprenez ou non? Les gens, ils ont une tour de folie, il n'y a pas d'écran. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes leur tête, c'est toujours comme ça, gris, anthracite. Tu pourrais pas sourire un peu? Non. Non. Je suis bouleversé par la joie qui me traverse. Mais j'arrive pas à l'exprimer. Eh ben, branche l'écran. Et ça, les gens, ils veulent pas comprendre. C'est qu'ensemble, ils font une espèce de réseau informatique. Mais chacun, il a un débranchement de l'autre. Il dit, je peux brancher? Non. Tu veux qu'on soit branché? Non. En réseau? Non. Alors, ça marche pas. Ça marche pas. Ici, la schlemout avec l'autre, d'accord? C'est que, évidemment, que ça commence par rapport... Ça commence par la schlemout avec soi-même, l'entité avec soi-même, parce que j'ai expliqué déjà que l'amour, c'est la coexistence. Donc la coexistence, c'est entre deux personnes qui existent. Donc les trois quarts de problèmes de coexistence viennent du fait qu'on est confronté à l'existence de l'autre ou à la non-existence de l'autre. Donc celui qui n'existe pas ne supportera pas mon existence. Et si moi je n'existe pas, oui, je suis mal à l'aise à cause de l'existence de l'autre. Donc comment je vais coexister si j'existe pas? C'est pour ça que la Torah, elle m'a donné deux devoirs. Elle m'a donné un devoir d'exister, un devoir de faire exister. Si je t'aide à exister, on va réussir à coexister. Alors les gens ne comprennent pas. Ils disent, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, moi j'ai existé. Eh bien, sache qu'il y a des gens, il faut leur apprendre à dire merci. Il faut leur apprendre à dialoguer. Il faut leur apprendre à faire la thérapie de ce qu'ils ont subi avec leurs parents. Tu dis, mais pourquoi? Moi, j'ai pas eu besoin, moi je me suis débrouillé tout seul ou toute seule. C'est ça le travail, mon frère. Il y en a qui viennent avec du ciment, il y en a qui viennent avec des briques, il y en a qui viennent avec de la colle. Et on fait une maison ensemble. Donc des fois, il faut travailler pour soi, des fois, il faut travailler pour l'autre. Tu dis, oh non, mais pourquoi? Peut-être l'inverse. Peut-être que la différence que Dieu a créée entre vous, elle a été faite pour que quand vous allez essayer de cultiver cette communion, vous allez créer la communion. Donc sans la différence, vous n'auriez pas senti l'intérêt de créer la communion. Donc la différence, elle est source de communion. Et comme ce que vous voulez atteindre, c'est la communion. Pas clair? Non? Les gens, ils disent, nous, on se quitte parce qu'on est différents. Ils appellent ça incompatibilité. S'ils avaient fait un peu d'informatique, ils auraient compris, mais bon. Ils disent, je suis incompatible. On est incompatible. Mais regarde-moi bien. Si vous aviez été compatible depuis le départ, vous n'auriez fait aucun effort pour être en communion. Donc, quand Dieu vous a mis incompatible, donc l'effort que vous allez fournir pour être compatible va créer la communion. Alors que si vous ne l'aviez jamais fait, il n'y aurait pas de communion, par exemple. Vous voyez à la fac, vous êtes formé. Par exemple, vous êtes formé pour un boulot. Il y a un deuxième type qui est formé pour un boulot. On vous dit, vous allez être collaborateur. Eh bien, vous rentrez les deux dans le travail, vous travaillez ensemble pendant 20 ans ensemble, mais il n'y a aucune communion. Pourquoi? Parce que vous êtes formé. D'accord? Hachem, il dit, non. Moi, je veux marier des gens qui ne sont pas formés. Là, tu aurais dit, tu te maries à 20 ans. On n'est pas formé à 20 ans. Donc, on n'est pas formé. Toi aussi, tu n'es pas formé. Ah, je dis, ah ben non, on n'est pas formé. Alors, il va falloir se former. Alors, on va se former. Alors, on va pétrir. Donc, mais moi, je suis comme ça. Moi, je suis une femme. Moi, je suis un homme. Moi, je suis nerveux. Moi, je suis calme. Moi, j'arrive pas à parler. Moi, j'arrive trop à parler. Alors, on n'a rien à voir tous les deux. Mais regarde, la différence qui existe entre nous deux, elle va nous obliger à créer une communion. Est-ce ce qui va nous lier? Pourquoi les deux collègues de bureau, ils deviennent jamais des copains? Parce qu'ils n'ont pas besoin de faire un effort pour se rapprocher l'un de l'autre, puisqu'ils sont formés pour être l'un à côté de l'autre. Mais ceux qui sont formés pour être un avec l'autre, il va falloir qu'ils fassent un effort de communion. Donc la différence, elle produit l'effort de communion, et l'effort de communion, elle amène l'union. Donc les gens qui voudraient que ça marche du premier coup, ça veut dire qu'ils veulent jamais être mariés. C'est d'ailleurs le problème qu'on rencontre avec la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que les gens, ils se marient, ils achètent une prestation de service. Comme on peut rendre l'appareil dans les 7 jours, dis-je m'excuse. Je m'excuse, c'est marqué, c'est contractuel. Vous ne répondez pas aux critères qui sont inscrits au contrat. Donc, je prononce la formule d'usage, inscrite aussi au 5e alinéa, je cite, ouvrez les guillemets, dégage. Lui a approuvé. À la prochaine. D'accord ? Maintenant, évidemment, il y a des cas d'exception. Oui. Quand il y a trop d'extrêmes entre les deux, ou alors qu'il y a vraiment des sous-dossiers qui remettent en cause complètement l'équilibre possible, donc là, on n'a pas d'obligation. Ouais, on ne va pas rendre compatible un ordinateur avec un bol de mayonnaise, même si on est très très fort en informatique. Et encore. Ouais, très fort. Donc, il y a des cas où ce n'est pas possible. Mais avant ce cas-là, avant les cas extrêmes qui justifient le divorce, on parle de gens qui doivent faire un effort de compatibilité. Et la compatibilité, c'est la clé de la solution. L'effort de compatibilité, c'est la clé de l'union. Donc ça, c'est la schlemout avec l'autre. Après, un homme, il doit être aussi entier avec l'acte. Dans son acte, c'est-à-dire. C'est marqué dans Tana de Eliyahu. Hayav Adam Lomar Matay Yagiu Maasai Le Maase Avotai Avraham Etzrak Yaakov. C'est marqué. Les sages, ils ont dit, un homme doit dire tous les jours, quand est-ce que mes actes vont arriver aux actes de mes pères Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc vous imaginez là, d'accord, vous êtes en mars 2000, Félicien Chichportiche, vous vous levez le matin et vous dites, quand est-ce que mes actes vont arriver aux actes de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors ta femme, elle te dit, écoute Félicien, tu te calmes, tu t'assois, pour qui tu te prends? Vous comprenez ou non? Toi, tu lis la paracha, tu lis les commentateurs, tu vois qu'est-ce qu'ils ont fait à Avraham, à Yitzhak, Yaakov, à Avinu. Ouais. Et toi, tous les jours, tu as une obligation de dire, quand est-ce que mes actes vont atteindre le niveau des actes? Faut pas rêver, Rabotai. L'inverse existe. T'as beaucoup de gens qui te disent, oh, vous savez, Avraham, Yitzhak, Yaakov, au fond, c'était des hommes. Oui. Oui. C'est-à-dire, par le bas, on y arrive facilement. Les gens qui veulent rabaisser, d'accord? Parce que eux, comme ils veulent se conduire comme des chiens, donc ça les intéresse que les Avraham Yitzhak ne soient que des hommes. Comme ça, ça les met pas trop en distance. Mais si Avraham Yitzhak et Yaakov sont des hommes, vraiment... Ah, qu'est-ce qu'on est, nous? C'est quoi? Le souvenir d'un poster qui a été dilué dans de l'acide. Le souvenir. Pas le reste de la dilution. Pas possible. Mais c'est marqué ici. Un homme est obligé de dire tous les jours quand est-ce que mes actes vont atteindre les actes d'Avraham Yitzhak et Yaakov. Il y a un peu la même question qui se pose dans le Rambam. Parce que c'est marqué dans le Rambam que chaque homme, il peut être comme Moshe Rabbeinu. Alors toi, tu dis, je me permets de douter. Si ça ne vous dérange pas. Alors les commentateurs là-bas, ils expliquent. Ils disent non. Quand c'est marqué que tu peux être comme Moshe Rabbeinu, c'est pas que toi, tu vas être Moshe Rabbeinu. Non. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il a été au maximum de ses capacités. Toi aussi, tu peux être comme Moshe Rabbeinu et atteindre le maximum de tes capacités. Maintenant, la Torah, elle va plus respecter un petit qui va au bout de ce dont il est capable qu'un grand qui fait la moitié de ce qu'il aurait pu faire. Donc, de la même manière, quand un homme il dit « Quand est-ce que mes actes ils vont arriver aux actes d'Avraham, Yitzhak et Yaakov ?» C'est quoi? C'est dans la shlemout, dans l'entité. Ça veut dire quoi? C'est de la même manière qu'Avraham, il a mis toutes ses forces dans ce qu'il a fait. Yaakov, il a mis toutes ses forces dans ce qu'il a fait. Alors moi aussi, je vais mettre toutes mes forces dans ce que je fais. C'est très important de vivre ce qu'on appelle toujours un peu au bord de ses limites. C'est quoi au bord de ses limites? C'est pas style tu te mets un stress, tu vas mourir. Non, c'est que tu sens que tu donnes le meilleur de toi-même. Quelqu'un qui est consciencieux dans le boulot, il donne le meilleur de lui-même. Dans son couple, il met le meilleur de lui-même. Pour ses enfants, il met le meilleur de lui-même. Quand il donne un conseil, il donne le meilleur de lui-même. D'un côté, tu dis, ah, oh, mais pff, c'est pas possible, c'est trop dur. De temps en temps, tu peux avoir un petit plâche. Toutes les 44 ans, on te pose une question, tu donnes le meilleur de toi-même. Et après, pendant 44 ans, qu'est-ce que tu fais? Si on dit que le but de la vie, c'est d'exister, et que exister, c'est par tranche. Vous savez que les gens, ils croient que c'est comme, la vie, c'est comme un tube de dentifrice. Donc, tu appuies, tu appuies, tu appuies, puis j'ai complètement existé. Non, non. Exister, c'est comme un signal de sonar. T'as une question et une épreuve. T'as un potentiel. Existe. Message. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Maintenant, à chaque séquence, la séquence, tu la vis à 100%. Ça, c'est exister par séquence. Donc, tu as gagné deux choses. Premièrement, tu as gagné que tu ne te dis pas que tu en as pour toute ta vie. Parce que les gens qui pensent que la vie, elle s'écoule comme un tube de dentifrice, ils disent, bon, ça fait rien. Aujourd'hui, je n'appuie pas, mais plus tard, j'appuierai fort. Comprenez ou non? Les enfants, ils disent, bon, je ne m'occupe pas. Mais quand il y aura un problème, je serai là. Trop tard. Non, trop tard. Et c'est fini. Régulier, par séquence. Ici, je donne le meilleur. Ici, je donne le meilleur. Deuxièmement, si vraiment quelqu'un il veut vivre à fond, c'est beaucoup moins dur de vivre à fond par séquence courte que de vivre à fond perpétuellement. Qui c'est qui peut faire ça? C'est comme un hockey sur glace. Il rentre deux minutes, il se repose. Il re-rentre, il se repose. Parce que intensément, tu ne peux pas vivre une heure et demie intensément. Tu vas mourir d'une crise cardiaque. Tu dis, mais quelle différence entre deux fois une minute et deux minutes? Rien que l'idée de la coupure, elle te permet d'atteindre le bout de ce que tu veux atteindre. Et hop, tu recommences. Hop, tu recommences. Il dit, c'est pareil. Il dit, un homme qui a compris que la vie, elle se poursuit par séquence, alors il sait que c'est comme des marches d'escalier. Quand on te dit, monte ce sommet, tu dis, je ne peux pas monter. Alors, je te l'ai mis en marche d'escalier. C'est comme des marches d'escalier. J'ai coupé des séquences. Alors là, tu vas arriver très, très haut. Les gens qui n'y arrivent pas, c'est les gens qui regardent la vie comme un grand toboggan. Ils disent, oh, mais je ne pourrais jamais monter là-haut. Je vais monter là-haut. Je dis, mais pourquoi tu le regardes comme un toboggan? Regarde-le comme un escalier. Et c'est vrai, étape par étape. Parce qu'il est là, il regarde le sommet. Attends, doucement. Là, tu fais le meilleur de toi-même. Là, tu fais le meilleur de toi-même. Là, tu fais le meilleur de toi-même. À ce moment-là, tu es complet avec toi-même. Parce que la situation, tu l'as vécue à 100%. La nuit, tu dors bien parce que tu as bonne conscience. Le lendemain, tu es prêt à continuer la guerre. C'est marqué aussi. Ve Avraham, ve Sarah, Zekinim. Ou Baim Bayamim, ils sont venus dans les jours. Alors ils disent Baim Bayamim, c'est quoi? C'est pas qu'ils sont venus dans les jours, ils sont venus avec leur jour. Quelqu'un, il doit avoir ce sentiment quand il termine la journée qu'il est content de sa journée. Maintenant, des fois, il dit, je suis vidé, je suis fatigué. D'accord, mais en tout cas, je suis content. Mais si quelqu'un, il a faim, il se dit, moi, je fais les comptes une fois par mois, une fois par an, il peut en rater beaucoup des journées. Mais si chaque jour, il se dit, bon, allez, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors d'un côté ça l'angoisse, d'un côté s'il a fait quelque chose ça se satisfait, s'il a rien fait ça l'angoisse. Mais le lendemain, il va faire attention de faire mieux puisqu'il a vu que la veille il n'a pas optimisé. Donc il fait par séquence. Avraham Baba Yamim, c'est-à-dire qu'Avraham, à la fin de sa vie, il savait ce qu'il avait fait durant toute sa vie, chaque jour. Jour après jour, heure après heure. Mais et plus tu te sens que tu n'es pas capable de tenir, plus tu crées des séquences. Par exemple un coléreux, il ne va pas dire je me mettrai plus en colère. Il dit voilà, aujourd'hui je ne me mets pas en colère. Un très coléreux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire moi, dans l'heure qui vient, je ne me mettrai pas en colère. Un très très coléreux, il dira moi, dans tel type de situation, je ne me mettrai pas en colère. C'est comme ça. Plus le niveau il est bas, plus la séquence elle est courte. C'est comme un drogué, tu ne peux pas lui dire arrête. Tu dis bon, tiens une heure, tiens deux heures, tiens trois heures. Et comme ça il grave, il gratte. Et ça c'est le lien qui existe avec l'acte. Moi, je veux produire un acte entier. Or, si moi, pour produire quelque chose d'entier, c'est parce que je suis entier. Donc, les préliminaires qui ont fait de moi un être entier vont faire que je vais être en correspondance avec ce qu'HM me propose, on l'a dit, avec les données, et je vais les exploiter de manière entière parce que je vais me donner entièrement dans ce que je fais. Donc, je suis entier avec ma réalité, je produis un acte entier et je suis entier avec un acte entier. Toujours le principe de l'entité. Toujours le principe de la matzah. On n'a pas bougé de la matzah pour l'instant. C'est exactement de la même manière. Si quelqu'un il comprend ça, il comprend pourquoi est-ce que ces centaines de facettes, pour moi j'en ai choisi quelques-unes, de la notion de l'entité, mais que vous pouvez démultiplier à l'infini vous-même, dans votre vécu. Moi je vais vous donner des clés. Mais il y a plein de portes que vous allez ouvrir avec ça. Il dit cette notion-là de l'entité, dans le sens où vraiment quelqu'un, il a ce souci de fabriquer quelque chose. Qui fabrique lui? Alors il dit, c'est cette notion d'existence. Exister par séquence à 100%. Voilà. Je fais sortir. Imagine un souffleur de verre. Tu vois une grosse boule rouge comme ça. Tu comprends pas. Il tire un morceau de verre avec un bout de fer. Tu vois rien, toi. Puis il fait hop, un verre. Je dis, c'est pas possible. Ah, j'ai rien compris, là. Mais s'il avait pris un plus gros morceau, il aurait fait une coupe. C'est pareil. Toi, tu veux exister. Tu es confronté à un problème. Donc tu dis, bon, alors quelle dose d'énergie il faut que je réalise pour régler ce problème. Tu calcules. Ça s'appelle la concentration. Donc je prends une petite dose, injectée au bon endroit, au bon moment, avec la bonne intensité. Je règle le problème. Les trois quarts des gens, soit ils ont un film de retard, ah, il y avait un problème, ou alors ils font un gaspillage d'énergie abominable. Ils prennent des tonnes et des tonnes d'énergie pour régler un petit problème de rien du tout. Soit parce que au niveau susceptibilité, ils n'arrivent pas à doser, puisque la dose de susceptibilité déforme la taille du problème. Soit parce qu'ils ont peur. Donc, ils vont arriver un mammouth, tu dis enlève tes lunettes. Ah, oh, un pygmée, d'accord. Soit parce qu'ils veulent régler le problème facilement, ils voient un moustique, vous savez, le type, il est là, il voit un moustique dans la salle. Il en a marre au bout d'une heure, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un missile sol-sol. Il vise. Il n'y a plus de moustique. Bon, il n'y a plus de quartier non plus, mais il n'y a plus de moustique. Pourquoi souvent tu vois que des gens, ils utilisent des missiles pour tuer les moustiques? T'as remarqué? Tu fais une petite bêtise, un petit écart. Apocalypse No. Tu dis, attends, mais qu'est-ce qui va pas? Ouais, mais tu te rends pas compte. Mais bon, mais tu te... Si, je me rends compte que j'ai rien fait. Mais non. Pourquoi il y a une telle disproportion entre la cause et la conséquence? Entre la colère et le problème? Pourquoi? Plusieurs raisons. Soit parce que le type, il regarde la vie avec une loupe. Soit parce que toi spécialement, il te regarde avec une loupe, la loupe de la rancune, par exemple, ou la loupe de la frustration, ou la loupe des complexes. C'est beau, on avait beaucoup de loupes, vous savez. Autofocus. Hein? Donc, automatiquement, il voit un truc comme ça. Soit parce qu'il veut se débarrasser vite du problème, alors il emploie des gros moyens, alors qu'en fait, il n'a rien réglé, parce que le temps qu'il répare ce qu'il a détruit avec le choix de ses moyens, ça prend plus de temps que pour réparer le problème qui existait. C'est-à-dire qu'à la limite, il valait mieux qu'il vive avec son problème qu'avec sa solution. Parce que la solution, elle lui a coûté plus cher que le problème. Surtout quand il vous dit, non mais c'est par principe. Moi, c'est pas Chas V'Shalom, par principe. Tu m'as tué par principe. Pour un principe. Alors, tout ça, c'est les éléments qu'on peut tirer de la matza par rapport à la notion de l'entité. Ah non, on passe à une deuxième facette. C'est marqué... Dans le pasouk, Ushmartem et Amatzot, vous garderez les matzot. Donc, c'est de là-bas qu'on apprend la mitzvah de faire attention, comment est-ce qu'on pétrit la pâte, de faire attention que la matzah ne devienne pas chametz. Regardez le Maharal, ce qu'il dit. Kima asav bemeirut, car ses actes, les actes d'Hachem, bemeirut sont faits vite, ou bekoar gadol, avec une grande force, adche en kanaikuv, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Maharal ici nous a donné une recette avec des principes fondamentaux. L'acte d'Hachem, il se fait vite. Bekoar gadol, avec une grande force. Hatche enkan ikuv, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle, par exemple. Je donne une image. Le TGV, il va à 300 km/h. D'accord? Il développe une puissance énorme. C'est pas seulement la vitesse. Parce qu'imaginez, il tire des milliers et des milliers de tonnes d'acier. D'accord? Donc il y a une puissance et la vitesse. Vous pouvez trouver la vitesse sans la puissance. C'est pas la même chose de recevoir dans sa salle à manger, comment s'appellent les avions là? J'ai plus de mots. Un mirage? Vous avez des petits mirages là? Un petit fantôme? Ouais? Avec un PH. Un petit fantôme en pleine salle à manger? Shabbat, tu dis par exemple, les enfants, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la menouha. Et il y a un fantôme qui traverse la salle à manger. C'est pas la même chose que de prendre un super jumbo 900 places Boeing. Parce que la vitesse c'est peut-être la même, mais la puissance c'est pas la même. Donc ici c'est marqué. Ma'asav, les actes d'Hachem, ils sont bemeirut, dans la vitesse, bekoar gadol, avec une grande force. Ad chez en kan ikuv, jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est pareil. Qu'est-ce qui va arrêter un TGV à 300 à l'heure? Tu dis, oh, mais tu sais, on peut mettre beaucoup de voitures, hein, on peut mettre Superman. Oh, ça fera un poster de Superman. Alors, venez, on va essayer de comprendre. Quelle allusion on met dans une grande force, une vitesse, Achen Kan Ikuv? Alors, premièrement, Meirut. Si on dit que le symbole de la matzah, c'est la vitesse, pourquoi? Parce que quand on dit que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé le temps, ouais, que la pâte lève, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire les choses vite. C'est pareil, vous avez vu déjà une équipe qui fabrique les matzot? Il n'y a pas de perte de temps. Tout est calculé, tout est médité. Il y a même un type qui a un chrono, hein, qui mesure le temps. Entre le moment où on coupe la pâte, on commence à la pétrir, et le moment où elle va au four, il y a un chronomètre. L'autre, il dit combien de temps on met pour laver les bouts de bois pour pétrir, combien de temps les chiffons, s'ils sont mouillés. Tout est calculé, tout est calculé. Akadosh Baruch Hu, il est extrêmement rapide. Pourquoi Hachem, il est rapide? C'est très simple. Parce qu'Hachem n'est pas soumis au temps. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a deux dimensions qui ne sont pas soumises au temps. Le monde intérieur de l'homme et le monde extérieur à la nature. Le monde intérieur de la nature. Le monde intérieur de l'homme, parce que c'est marqué « Dvarim asichlim enam itachat azman ». Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Ça veut dire qu'un homme à l'intérieur de lui, il n'y a pas de temps. Je sais que c'est un peu dur à comprendre, mais vous pouvez demander au CNRS de vous expliquer, ils n'ont pas compris. D'accord ? Le monde intérieur n'a pas de temps. Pourquoi un homme peut voir des millions d'images en une seconde? Pourquoi quelqu'un il peut faire une introspection globale? Pourquoi est-ce que quelqu'un il contient son passé, il contient son présent et en vérité il contient aussi son futur? Mais je ne veux pas vous faire peur. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de temps. Or, qu'est-ce que c'est le non-temps? Le non-temps, c'est un présent continu. Ça va? Donc, un homme à l'intérieur, il est en présent continu. Donc, le présent continu contient le passé. Quelqu'un qui vous a fait une crasse, une vraie crasse, vous le revoyez 10 ans après, vous ressentez exactement la même chose qu'il y a 10 ans. Tu dis alors, et le temps, la pommade du temps, le temps a passé, ça viendra avec le temps. Je suis mis par quelqu'un, il a perdu son père. S'il voit son sosie, ça ne lui fait pas un choc. Il dit pourtant, ça fait 30 ans. À Bataille, le temps, c'est comme la pommade. Tu enlèves la pommade, le métal, c'est le même en dessous. C'est pareil. La personne à l'intérieur reste la même. Mais Dieu, il a créé l'oubli pour qu'on puisse vivre. Parce que si on n'avait pas d'oubli, on deviendrait fou. Quelqu'un, il a fait une avéra. Si toute la journée, il voit sa avéra comme ça. Il ne peut pas vivre. Je vous crois, il a créé l'oubli. Mais en vérité, c'est une illusion d'optique. Vous comprenez ou non? C'est comme si quelqu'un, il dit, tu vois, là, il y a une maison. Puis je m'éloigne. Je m'éloigne. Ben, il n'y a plus de maison. Non, il y a une maison, mais elle est loin. C'est pareil. Dans le temps, c'est pareil. Tu crois que tu t'éloignes. Mais ça, c'est un espèce d'enduit émotionnel que Dieu il a créé pour que tu puisses vivre. Mais en vérité, tu contiens l'événement à 100%. Donc le monde intérieur ne contient pas de temps. Le monde intérieur de la nature, tu as la couche externe de la nature, elle contient le temps. Le bois, il se décompose à une certaine vitesse, les molécules, elles se déplacent, les atomes, ils se déplacent. Il y a une vitesse. Qui dit vitesse, dit temps. Mais l'essence de la matière, elle n'a plus de rapport avec le temps. L'essence de l'univers, elle est plus soumise au temps. L'essence de Dieu, elle n'a rien à voir avec le temps. Donc maintenant, il y a deux dimensions. Regardez. Enfin, il y a trois. Il y a Dieu, la nature, le corps de l'homme, l'intérieur de l'homme. Donc l'intérieur de l'homme, hors temps. L'intérieur de la nature, hors temps. Et le milieu, temps. Par exemple. Ton œil, à l'extérieur, il voit 24 images secondes. Maintenant, ton œil à l'intérieur, ton cerveau, il voit 24 milliards d'images secondes. Pourquoi est-ce que le cerveau va plus vite que l'œil? Parce que l'œil, regardez bien, l'œil c'est une ouverture sur le monde extérieur, qui lui est soumis au temps. Le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Donc vous remarquerez une chose, c'est que à chaque fois que les gens se soumettent à la réalité, ils vont lentement, et qu'à chaque fois que les gens subliment la réalité, on appelle ça des idéalistes. C'est quoi des idéalistes? C'est des gens qui vivent en fonction de leurs idées. Mais leurs idées, elles viennent d'une dimension où le temps n'existe pas. Donc quand, regardez bien, ils choisissent comme moteur de réalisation quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité, parce que c'est un rêve, oui, ils vont plus vite que ceux qui sont dans la réalité, parce qu'ils ne sont pas soumis au temps, puisque l'idée n'est pas soumise au temps. Il y a fumt. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des grandes choses et des gens qui font des petites choses. Parce qu'il y a des gens qui vivent en lien total avec la réalité, il y en a qui sortent de la réalité. Combien de fois je vous ai dit déjà, nous les juifs, nous sommes un peuple de cinglés. Nous sommes des cinglés. On est des cinglés, nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le sens de la réalité. Moi j'adore quand un juif il me dit, mais écoutez, il faut quand même avoir le sens de la réalité. Mais Baruch HaShem, depuis 3500 ans, on n'a pas le sens de la réalité. On est 10 juifs, on va faire une synagogue. Tu crois qu'on va prendre un camping-car style le curé ambulant et on se met tous ensemble, on dit « prions Dieu ». Non, nous, il nous faut tout de suite 3, 4, 7, 8, 9 millions de francs, un bombe comme ça, avec 30 mètres de plafond. Tu dis « Attendez, monsieur Salomon, on est 3, on sera bientôt 4 ». Tu dis, moi, comment je la vois, la prière? Moi, je la vois pas comme ça. Moi, je la... Pousse-toi, je vais faire la mida, pousse-toi. Vas-y, mets ta tête dans le lavabo, comme ça, je peux faire mishtahavé. Attends, on vit pas comme ça, vas-y. Par contre, son bureau, au magasin, tu le vois, il est... comme ça. Ouais. Et là, il a les étagères des pantalons, les étagères des trucs, le fax, le truc, le modem, le truc. Et là, il a le micro de l'ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les trois dimensions, elles sont claires. Non tant d'Hachem, non tant de l'intériorité de l'homme, au milieu de la matière. Alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, écoute, fais la matzah. La matzah symbolique non tant. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué déjà qu'une matzah, c'est, entre guillemets, c'est un hametz qui n'a pas subi le temps. Puisque le hametz, c'est une matzah qui a subi le temps. Donc quand moi, je laisse le temps agir sur la matière, elle devient hametz. Mais si j'agis, regardez bien, tellement vite que je ne laisse pas le temps prendre la réalité. Par exemple, vous parlez à quelqu'un, puis il y a un mot qui vous échappe, un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. Vous savez, des petits mots, là, les lubrifiants, ils appellent ça. Un petit mot. Maintenant, vous voyez la tête de l'autre, maintenant, vous avez... À partir de ce moment-là, vous avez un compte à rebours. Un compte à rebours rabotaille pour Apollo 4. Tu vois l'autre, il commence à faire... Il devient de plus en plus rouge. T'attends. Et il décolle, il t'explose en pleine tête. Si toi, tu ne laisses pas le temps agir, tu dis un mot de travers, tu... Ah, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Oh, pourquoi j'ai dit ça? Oh, je ne voulais pas le dire, c'est pas moi. Et t'es rare, très loin, parce que tu... Oh, on arrête, excuse-moi, viens, on sort. Ouf. Tu laisses pas le temps. Comme je vous ai déjà dit, la tristesse, c'est le temps que j'octroie à mon problème. Si je n'ai pas le temps de donner du temps à mon problème, je suis pas triste. Puisqu'il faut avoir le temps d'être triste. Il faut prendre du temps. J'ai dit, mais je suis triste. Mais comment t'as le temps? Imagine, il y a un type qui est en train de te matraquer avec une matraque. T'as le temps d'être triste? T'as pas le temps. Mais je suis occupé à survivre. Et je suis en train de survivre. L'autre qui a rien à faire, personne ne le matraque. Il dit, tiens, je vais prendre 3-4 ans de tristesse, tiens. Des années sabbatiques de tristesse. Mais il ne peut pas. Je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne sais plus ce que j'ai dit. Excusez-moi, j'ai fait 10 conférences depuis mardi dernier. J'ai lu dans un livre sur les camps de la mort, et il faut le redire ça. Je l'ai dit ça? Ah, oh, c'est bon. Pour la grippe? Ah, elle est bonne. Ah non, ce n'est pas l'histoire de... Ah, Non, il dit un truc extraordinaire, ça m'a choqué. Lui, il n'a pas, comme c'est des témoignages, c'est pas, moi j'aime pas les livres où les gens ils réfléchissent sur ce qu'ils ont vécu, ça m'intéresse pas, qui marquent ce qu'ils ont vécu, parce qu'après le taux de déformation il est trop fort. Et le type il écrit, il dit, c'est incroyable, on a vécu à moins 40, on était habillé en pyjama, des fois on était trempé de pluie, on nous laissait à faire l'appel dehors à moins 40 pendant des heures et des heures, on était sous-alimenté, on buvait de l'eau un petit peu sale, il dit, on n'a jamais attrapé une grippe. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais alors la grippe, c'est une maladie de luxe. C'est une maladie pour les gens qui sont en bonne santé, en vérité. Comprenez-nous? Oh, moi, je me suis mal couvert. Ou j'ai un bureau qui est surchauffé, ou une maison surchauffée. Je suis sorti, je n'ai pas fermé bien. Ouh, petite température, différence de température, tac, tac, tac. Les molécules, elles absorbent. Hop, virus. Parce que terrain, virus, grippe. Mais l'autre, il n'a pas le temps. Elle a la grippe. Avec 39 de fièvre, il est en train de casser des cailloux toute la journée. Ah, tu vois, il va voir le SS, il dit, écoutez, je me sens pas bien. Nous, au contraire, ouais, nous, on arrive au boulot. Ouf, j'ai un peu de... Ça veut dire, je m'en vais 15 jours. Et si ça va mieux. Alors, je sais pas, est-ce que eux ils étaient forts? Est-ce que nous, on est faibles? Je sais pas. Non, mais attendez, je ne vous ai pas dit que la vie, c'est un camp de la mort. Non, c'est seulement pour nous apprendre à relativiser ce qu'on vit. Parce que quand on perd la notion de la relativité, c'est-à-dire d'être relatif à quelque chose, donc tout est grave, Rabotaï, tout. même quelqu'un qui a un grave souci, c'est que les petits pains ne soient pas bien cuits. Attends, c'est pas une leucémie, là. Ça va aller, là. Mais j'ai le souci. Mes petits-enfants, mes petits chéris, ils vont prendre ces petits pains et puis ils vont pas être croquants comme il faut. Ils vont être croquants, mais pas comme il faut. Ils vont être croquants aux trois quarts. Ils vont pas avoir cette saveur qui va leur pénétrer parce qu'il faut qu'ils soient juste assez chauds pour qu'ils le ressentent jusqu'ici. Oh, ça va, c'est des petits pains, là. Oh, oh! Donc, puisque c'est relatif, à quoi? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps d'attraper la grippe. Tu te lèves, coup de matraque, tu travailles, coup de matraque. Ah, mais non, je ne vais pas dire à Chaz v'Shalom qu'il faut vivre comme ça. Non. De la manière qu'il existe une pression négative, il explique une pression positive. Quelqu'un dit, mais j'ai quelque chose à faire de ma vie, je suis en train de travailler, là, je suis en train de construire, je suis en train d'évoluer, je suis en train de grandir. Alors l'autre, le Yetzara, il dit, oh, tu ne veux pas prendre 15 jours pour rien? Je peux pas. Est-ce que vous comprenez que le premier réflexe, quand le Yetzirara vient pour me faire fauter, le premier réflexe, c'est de lui dire, je suis occupé. Excusez-moi, je suis occupé. Or, comme le Shulchan Aruch, il prend à peu près 120% de la journée, donc le type, il est occupé. Et ça, il dit, mais je peux pas, j'étudie, je travaille honnêtement, je fais ce qu'il faut, je fais kiboulavahem, je réponds gentiment, je me travaille sur la colère. Le Yetzirara, il dit, mais dans une petite avéra, quand même, je peux pas. Reviens demain. C'est pareil ça. Bémeirut, et ça c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre, c'est que si je ne laisse pas le temps avoir une emprise sur moi, il n'a pas d'emprise. Quelqu'un qui court très vite, tu ne peux pas l'attraper. Eh bien, nous on croit que y a une réalité qui s'appelle le temps, c'est une réalité, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. C'est une réalité. Emploi du temps, calendrier, montre à quartz, montre atomique, mon truc, réveil, pion qui sonne, téléphone, le temps. Ça va? Toi, tu dis rien. Pourquoi? Parce que, Bekoah Gadol, c'est marqué vite ou Bekoah Gadol. Quelqu'un qui vit les choses avec une grande force, il développe une grande force. Oui? La force d'exister, la force de vivre, la force de se réaliser en tant que juif, la force d'apprendre la Torah, la force de ne pas se conduire comme un mesquine, la force de d'être soi-même. C'est une force énorme, c'est 10 TGV. D'accord? Donc lui, quand il va associer l'intensité de vie et qu'il va l'appliquer sur la grille du temps, en Bota, il n'y a plus de grille du temps. Il n'y a plus. Je vous ai déjà dit qu'il y a deux courbes qui s'opposent. Une courbe qui s'appelle le temps, une courbe qui s'appelle l'intensité. Maintenant, l'intensité, c'est à l'intérieur, c'est une intensité de vie. Le temps, il est inscrit aussi dans la matière, puisque le monde ne contient pas le temps. Maintenant, si moi, j'ai une intensité tellement forte que je déstabilise la molécule au fur et à mesure que je la traverse, par exemple. On va faire un peu de science-fiction, d'accord? Imaginez-moi, j'ai devant moi un mur. Je dis, mais ce mur, il est fait de quoi? Eh bien, ce mur, il est fait d'atomes qui sont associés dans une structure énergétique qui est construite. Maintenant, imagine-moi, j'ai un canon déstabilisant de structure énergétique. Donc, au fur et à mesure que je rentre à l'intérieur du mur, je défragmente les structures moléculaires. Donc, je traverse. Mais quand je défragmente le mur, je défragmente aussi le temps qui est dans le mur. Parce que vous savez qu'on sait depuis Albert Einstein que le temps est inscrit dans la matière. Vous savez ça? Ce qui est écrit dans le Zohar depuis 3500 ans. C'est comme ça la science, il faut être patient. D'accord? Donc, maintenant, si moi, je suis à l'intérieur, ouais, et j'ai cultivé mon être, mon désir d'être, mon désir d'avoir, mon désir d'être proche d'Hachem, donc je fais monter la pression. Après, j'ouvre la porte, je dis attention, j'existe. Quand je sors, quand mon être intérieur, ouais, il existe, avec un tuyau qui s'appelle la sincérité, qui traverse mes limites psychiques, mes limites physiques, mes limites vécues, qu'est-ce qui va m'arrêter? Est-ce que vous comprenez? C'est comme si quelqu'un il dit, tu sais quoi? Moi, je vais mettre ici 20 tonnes de béton et 20 mètres d'acier et 20 mètres de tungstène. Il dit, pourquoi faire? Pour retenir un volcan qui est en dessous. Il dit, mon fils, le volcan, il va te faire sauter le béton, sauter le tungstène, sauter. À l'intérieur de nous, on a une matière en fusion qui s'appelle la Neshama. La Neshama, elle est d'une intensité 3 milliards de mégawatts. Oui. Si moi, j'arrive à trouver la démarche, ouais, pour maintenir cette température jusque dans le monde extérieur. Mais c'est fini le temps, Rabotaï. C'est fini les obstacles. C'est fini les difficultés de la vie. C'est fini la conjoncture. C'est fini d'être écrasé par les événements. C'est fini. Oh, on n'a pas toujours été aidé. Vous savez, on n'a pas toujours été aidé. Mais t'exploses. Tu exploses le monde. Qu'est-ce qui va t'arriver? C'est comme si vous dites, oh, Bill Gates, ben, heureusement qu'il n'avait pas de complexe. Mais il ne raisonne pas comme toi. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle de l'épicerie fine. Alors, ils se disent, moi, si je vends 2 ordinateurs, je me fais 4000 balles. Si j'en vends 8, je me fais tant. Si j'en vends 12, si je prends 4 vendeurs. Lui, il ne fait pas comme ça, lui. Il dit, attends, qu'est-ce qui coûte le moins et qui rapporte le plus? L'intelligence. Qu'est-ce que tout le monde a besoin? L'organisation. Donc, si j'organise l'intelligence, je vais gagner énormément. Qu'est-ce qu'il fabrique? Windows. Tout le monde a besoin d'organisation, tout le monde a besoin d'intelligence. Alors, comme on est tous flemmards, on préfère avoir quelqu'un qui réfléchit à notre place. Or, l'intelligence, ça ne te coûte rien. Pas de matière première, pas de frais d'exploitation, rien. Donc, il vend du vent. Tu dis quand même, 5000 balles la disquette, oui, du vent. Réa. Frais de copie, réa. Du plastoc. Qu'est-ce que tu prends? T'achètes le droit de ne pas faire des efforts. C'est une chorma, ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait d'arithmétique. Il n'a pas fait l'arithmétique. Il n'a pas fait le calcul. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 15, il a dit 1, 2, 1 milliard. 3, 20 milliards, c'est pas pareil. Parce que quand tu commences par un calcul, ouais, t'as peu de chances de finir par un projet. Mais quand tu commences par un projet, à la fin, tu peux même plus calculer. Je donnais des cours à des businessmen, des très très gros. Il m'a dit, on parle pas d'argent, on parle de projet. On parle pas d'argent, on parle de projet. Après, on fait des combinaisons de projets. Mais un projet, c'était une chaîne de centres commerciaux. Une chaîne, c'était un projet. Alors imagine des combinaisons de projets, une chaîne de centres commerciaux avec une chaîne d'exploitation agroalimentaire, plus une chaîne d'import-export de produits, je sais pas quoi, plus une chaîne de publicité, plus une chaîne de... Voilà comment il fonctionne. Donc comment, quand tu fais des mégapoles économiques comme ça, tu peux parler de fric. On parle plus d'argent, là, c'est fini. Donc celui qui raisonne, regardez bien, dans l'idée, il n'est pas pris par les problèmes de moyens. Et celui qui raisonne dans le moyen, il n'atteint jamais le fruit de ses idées. Alors, comment ça s'appelle ça? C'est du non-temps, c'est à l'intérieur. D'accord? Maintenant, s'il y a 2 couches intérieures, l'intérieur de Dieu, donc l'intérieur de la nature, l'intérieur de l'homme. Et s'il y a 2 couches extérieures, le corps, la nature, le monde et le corps. Donc, quand la Torah, elle demande à l'homme de lutter contre la superficialité, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Quand la Torah demande de s'écarter de la matière, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Rabotaï, t'es ou au milieu, ou ici. C'est comme tu veux. T'as pas remarqué que les gens superficiels, ils ont des relations superficielles, des intérêts superficiels, des calculs superficiels, des constructions superficielles. Tout est à court terme, tout est petit, tout est consommation, tout est intérêt, tout est mesquinerie, tout. C'est normal, ils fonctionnent à l'extérieur. La Torah te dit, écarte-toi de l'extérieur. Pour atteindre l'intérieur. Tu dis, mais comment je vais faire? Regardez, je dois atteindre mon intérieur et je dois atteindre l'intérieur d'Hachem. Comment je vais faire? Il faut que je traverse mes intérêts personnels, psychiques, physiques, vécus, 3 couches, plus la réalité de la nature, la réalité, comment c'est? Il faut quand même avoir la réalité. Et après, il faut que je traverse la nature. Il faut que je tienne compte de toutes les... Alors, bureau d'études, inspection, analyse, recherche, construction, plan, établissement, stratégie. Il y a beaucoup, beaucoup. Je te dis, laisse tomber. Laisse tomber. Je vais te trouver un tuyau qu'on plante à l'intérieur profondément de la matière pour traverser sa matière et atteindre son intériorité. Et que le deuxième bout du tuyau, je le traverse la nature et je vais à l'intérieur de la nature. Comment il s'appelle? Oraita. C'est la Torah. Alors c'est marqué dans le Zohar. C'est marqué Israël, Kutcha Berichu Veoraita Hadou. Les Bnei Israël et Hachem et la Torah, c'est un. C'est-à-dire quoi, un? C'est simple. Moi, je dis, je voudrais trouver un système, je voudrais trouver un système qui me permette de dépasser ma nature et de dépasser la nature pour trouver Hachem. Je dis, mais pourquoi tu cherches Hachem? De toute façon, tu le contiens, Hachem. Oui, mais le Hachem qui est en moi, il est potentiel. Le Hachem qui est à l'extérieur, il est, c'est-à-dire, au départ de la nature, il est réalisé. Aller au Lama Ba, c'est quoi? C'est réaliser Hachem qui est en toi. Je ne peux pas vous résumer plus. Ça va? Donc, quand moi, je vais prendre cette Torah, parce que regardez bien, mon corps, ma Neshama, elle fonctionne sur un mode 613. 248 membres, 365 nerfs et artères. Mon corps, ils font... spirituel. Mon corps, 613. 248 membres physiques, 365 nerfs et artères physiques. Mon vécu, 613. Pourquoi? Parce que le monde, il est créé à partir des 613 mitzvot. Parce que Dieu, il a créé le monde. Il a créé la Torah, après il a créé le monde. Le monde, il fonctionne selon les 613 mitzvot. Par exemple, quand vous prenez le loulav à Sukkot, vous développez... Vous savez, on fait comme ça avec le loulav. Alors quand on fait comme ça, on repousse les énergies négatives et on attire, on développe, on hypertrophie les énergies positives pour faire fructifier les terres, les fruits de la terre. C'est ça le loulav. Donc quand tu es en train de faire ça, tu fais un travail. Quand tu mets le tefillin, tu fais un travail. Quand tu fais Shabbat, tu fais un travail. Chaque mitzvah, 613, le Rabbi Mechaï dit 613 mitzvah, 613 mondes. Donc il y a 613 modules qui font fonctionner le monde. Donc ta Neshama, 613. Ton corps, 613. D'accord? Le monde, 613. Dis-moi, t'es pas un peu haham de dire... Je pourrais pas trouver un tuyau qui passe par les 613 de l'Aneshama, qui passe les 613 de mon corps, qui traverse les 613 de la nature et qui atteint Hachem. Ben, t'as trouvé la Torah. 613. Oh, mais c'est bien sûr. Mais c'est évident. Mais alors, si c'est comme ça, c'est facile. Tu prends les 613 mitzvot, tu les appliques, tu dis, mais ça dépend comment tu vas les appliquer. Je ne te parle pas des gens qui font 612 ou la 14 ou la 2. Ça, c'est... Bah, il manque les trois quarts des raccordements. Après, ils se disent, ah, comment ça se fait qu'il y a une fuite dans la cuisine? Il y a une fuite dans la cuisine. T'as oublié de finir les tuyaux. Il manque les trois quarts des tuyaux. Il y a une fuite. C'est pas une fuite qu'il devrait y avoir. C'est une piscine dans la cuisine. Il faut finaliser les raccordements. Donc, maintenant, tu dis, mais ça ne suffit pas d'avoir les tuyaux. Pourquoi? Parce que les tuyaux, ils peuvent être bouchés. Par ta petitesse, ta mesquinerie, tes calculs, ton intérêt personnel. Alors la Torah, elle te dit, tu vas faire l'ishma. Tu sais ce que c'est l'ishma? L'ishma, c'est le premier déboucheur liquide. Et c'est des stops. Des stops, c'est quoi? C'est un déboucheur. Vous avez un bouchon, ouais. Vous mettez des stops, il n'y a plus de débouchon. Il n'y a plus de bouchon. C'est pareil. Quand quelqu'un il fait les shem shamaim, c'est-à-dire quoi? Il détruit les bouchons qui font écran devant sa neshama. C'est quoi l'olishma? Il fait par intérêt, il fait par calcul, il fait pour l'argent, il fait pour le kavod. Ce sont des bouchons de matière qui empêchent l'antimatière de sa neshama de se réaliser dans le tuyau de la Torah. Donc l'ishma, c'est d'enlever la matière qui s'inscrit dans ton projet personnel. Mais si tu as un projet personnel sans matière, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Maintenant, tu as du non-matière chol et du non-matière kodesh, par exemple. Quelqu'un, il fait ça pour la gloire. Il ira plus loin que quelqu'un qui fait ça pour l'argent. Quelqu'un qui fait ça pour la haine. Pourquoi Hitler, il était dangereux? Pourquoi Napoléon, il a fait tellement? Vous savez pourquoi? Parce que c'était pas des gens intéressés. Napoléon, qu'est-ce qu'il voulait? La gloire. Non, essayez de réfléchir. Un Corse, 1m60, il prend toute l'Europe. C'est quand même incroyable. L'autre, 2m12, ouais. Il arrive à peine si, il arrive à avoir un champ de 50 mètres sur 50 mètres. Pourquoi? Parce qu'il était petit, Napoléon, mais il avait une ambition énorme. Qu'est-ce que c'est l'ambition? L'ambition, c'est une orientation que tu donnes à ton énergie intérieure. Donc, plus c'est dénué de matière, moins ça a une taille, puisque c'est la matière qui a une taille. Donc, si tu as une ambition qui n'a rien à voir avec la matière, tu es pratiquement indestructible. Pourquoi Hitler, il a été tellement loin? Parce qu'il a fait par haine. Le seul but, c'était la haine. la haine, c'est pratiquement spirituel. Parce que c'est pas matériel. Donc, comme c'est pas matériel, ça va très loin. S'il avait fait pour du fric, il serait arrivé en Belgique. Mais tout le fric, il l'a utilisé pour la destruction, pour la haine. Même la guerre, il l'a perdu à cause de la haine. Parce que les trains d'armement, il les utilisait pour transporter les juifs. Donc, tout le but, c'était la haine, du début jusqu'à la fin. Donc, puisque c'était la haine, donc c'est énorme. Parce que comme il n'y a pas de matière, il n'y a pas de taille. Comme il n'y a pas de taille, c'est très grand. Mais s'il y a une matière, il y a une taille, il y a une taille petite. Donc, l'ishma, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une cause pour la cause. Les Shem Shamaim, c'est l'ishma Kodesh. Chez l'eau, les Shem Shamaim, c'est l'ishma Hol. Excusez-moi. Quelqu'un, il peut, quand il est au-delà de la matière, il peut le faire ou pour le Kodesh ou pour le Hol. Mais en quelqu'un qui fait ça pour la gloire, par exemple, si quelqu'un il veut du fric, il va gagner 20, 30, 50, 60 millions de francs. Mais si quelqu'un il veut le pouvoir, il peut gagner 50 milliards, puisque les moyens du pouvoir sont beaucoup plus grands que les moyens de la richesse. C'est pour faire partie des gens les plus riches du monde. Il ne faut pas tellement d'argent. Mais pour avoir, par exemple, pour être président des États-Unis, ce n'est pas de l'argent qu'il faut. Il faut un désir de pouvoir extraordinaire. Et le pouvoir des États-Unis, il est nettement plus grand que le pouvoir de l'homme le plus riche du monde. Donc tu vois bien que l'énergie qui t'a poussé à avoir de l'argent, ouais, elle n'a rien à voir dans son intensité avec l'énergie qui t'a poussé à être président. Donc le degré d'intensité, il va être le carburant de ton déplacement. Ce qui est marqué dans le Maharal. Bemeirut, c'est la vitesse. Bekohar Gadol, c'est l'intensité que tu vas mettre à l'intérieur. La Torah, elle te demande de vivre vite et intensément. Vite et intensément. Les tzadikim, ils courent toujours. Jamais tu les vois. Bon, on verra demain, on verra. Il y a un livre qui s'appelle Le Patron avant tout. Si vous avez l'occasion un jour, achetez-le, lisez-le. Le Patron avant tout. C'est comme un livre de Moussard. Ça raconte la vie d'un tzadik. Mais rien que si vous voyez l'emploi du temps du type, vous dites, c'est pas possible. Attends, c'est pas un type genre à la yeshiva. Il travaille. Il travaille, il fait cours, il s'occupe de ça, il s'occupe de ça, il s'occupe de ça, il s'occupe de ça, il s'occupe de ça. De quoi il s'occupe pas? Mais tu dis, mais où il trouve le temps? Moi, j'arrive même pas. Moi, je te promets, hein, quand j'ai fait mes 8 heures de boulot, mes 3 heures de télé, ma parole, j'ai plus rien, j'ai plus le temps de rien faire. Les lessivelles s'accumulent, les devoirs de mes enfants, j'arrive pas. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'il y en a un qui vit le temps pour le temps, il y en a un qui vit le temps à travers l'intensité d'existence. Celui qui vit intensément, c'est il raccourcit, il compacte. MP30, ça n'existe pas encore, ça va venir. Oui. Pourquoi? Parce que c'est marqué, il y a Yaakov Avinu, il voulait prier au Har HaMoria. Et c'est marqué, Vaivga Bamakom. Il a trébuché sur l'endroit. Il s'est retrouvé au Har HaMoria. Vous savez, il y a un miracle. Oui, il était parti de Haran, il s'est éloigné. Il était à 3 jours de marche de Har HaMoria. Et il se retrouve, parce que c'est marqué Vaivga Bamakom. Il a trébuché dans l'endroit. Alors Rachid explique que quoi? Que c'est l'endroit qui est venu à lui. Je ne sais pas si vous sentez le problème. Lui, il était loin. L'endroit, il était là. Et d'un seul coup, il s'est retrouvé à l'endroit. Donc, il a trébuché. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Par exemple, quand vous êtes sur un tapis roulant, quand vous arrivez au bout du tapis roulant, ça vous arrive de trébucher. Vous savez pourquoi? Parce que le parterre, il ne se déplace pas. Le tapis roulant, il bouge. Maintenant, vous, imaginez que vous voulez aller à Lyon. Et d'un seul coup, le parterre où vous êtes, les 20 cm où vous êtes, se déplace à une vitesse supersonique et vous vous retrouvez à Lyon. Bah, quand il va s'arrêter le parterre, bah, vous allez faire comme ça. Ah, imaginez, Yaakov Avinu, il dit, mince, j'ai oublié de prier au Har HaMoria. Hop, il est au Har HaMoria. Alors tu dis, écoute, j'ai fait un peu de physique. Le déplacement dans l'espace provoque une certaine résistance de l'air, de la matière, du volume, de la taille. On traverse pas l'espace comme ça. Ça veut dire que d'après toi, si Yaakov Avinu il avait traversé l'espace à cette vitesse, il aurait dû arriver cramé. Comment un voyage de 3 jours de marche, je peux le faire en une seconde? Alors on appelle ça Kfitsat Aderech. C'est le raccourcissement du chemin. Mais je dis, mais attends, excuse-moi, mais un chemin, ça ne peut pas se raccourcir. Alors, est-ce que c'est lui qui a été très très vite vers l'endroit, ou c'est l'endroit qui est venu vers lui? Attends, je t'explique. S'il s'est déplacé très vite, il va s'enflammer. Mais si l'endroit il vient vers toi, tu t'enflammes pas. Est-ce que vous me suivez? Dommage. Qu'est-ce qui provoque la chaleur sur une fusée qui se déplace? C'est parce qu'elle se frotte à l'air. Donc quand elle se déplace, elle subit une pression, une résistance à l'air qui développe une chaleur. Parce qu'elle traverse des couches de matière qui sont très peu denses, qui s'appellent l'air. Mais si la fusée ne bougeait pas et que la lune venait, donc la fusée, elle serait froide. Vous comprenez ou non? Alors, là, c'est Yaakov Avinu qui a été très vite là-bas, ou c'est l'endroit qui est venu? La Torah dit que c'est l'endroit qui est venu. C'est intéressant. Je vous donne un exemple. Vous êtes assis dans une gare. Gare SNCF. Ça existe, non? Vous êtes dans un train de banlieue. Surtout les trains à deux étages. Vous êtes en bas. Vous êtes assis comme ça et vous voyez le parterre. Et puis, ça bouge. Ça bouge. Pendant une seconde, vous n'avez pas un doute. Est-ce que c'est le train qui part ou c'est la gare qui part? D'accord? En réalité, tu dis, mais attends, ça ne veut rien dire. Imagine une correspondance de gare.
Oui.
C'est-à-dire, le train ne bouge pas, mais les gares, elles viennent. J'ai croisé deux gares. D'ailleurs, c'était deux villes, c'était pas deux gares. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov Avinu, il voulait prier et il s'est retrouvé à l'endroit où il voulait prier? Il dit, Rav Dessler, c'est normal, il voulait y être. Alors nous, on dit, mais est-ce que ça suffit de vouloir? C'est quoi la volonté? Je vous ai déjà dit, la volonté, c'est l'essence de l'être. Or, la volonté, c'est l'essence de l'être. La volonté, c'est l'essence du psychique. La volonté, c'est l'essence du physique. Pourquoi? Parce que la matière, elle est faite à 95%, à 99% d'énergie. L'énergie, c'est la volonté de Dieu. La neshama, c'est de la volonté de Dieu. Donc la matière, regardez bien, la structure de l'énergie, elle est faite exactement de la même structure que la volonté humaine. Donc la coïncidence de la volonté humaine et de la matière, c'est en vérité une confrontation énergétique. Ah, c'est pas le cas pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui donnent une réalité physique trop importante. Mais si Yaakov Avinu, regardez bien, son psychique, c'est complètement de l'énergie. Son physique, c'est complètement d'énergie. Son vécu, c'est complètement d'énergie. Donc sa réalité, c'est d'énergie. Donc pour lui, traverser l'énergie, c'est rien. Et dans l'énergie, il n'y a pas de vitesse. Que tu es ici ou que tu es là-bas, c'est la même chose. Or si tout le décor, c'est quoi? C'est une organisation de l'énergie. Donc le déplacement à l'intérieur de la matière, au niveau de l'énergie, il est intemporel. Donc Yaakov Avinu, il voulait être là-bas, il est là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque la vitesse, je ne crois pas que vous avez fait de la physique à l'école ou non? La vitesse dépend toujours du lien avec la matière. Une voiture va moins vite qu'un avion parce qu'elle touche le parterre. Un avion va moins vite qu'une fusée parce qu'elle touche l'air. Une fusée va moins vite qu'un vaisseau spatial parce qu'il y a encore, il y a plus néant, d'accord? Donc moins il y a de matière, plus il y a de vitesse. Mais s'il n'y a même pas de fusée, ça va encore plus vite, non? Donc l'énergie dans l'énergie, ça va encore plus vite. Donc un jour, au lieu de transporter des voyageurs, on va les téléporter. On va les télécharger en email. Tu veux voir ta grand-mère? Télécharge. Mamie, qu'est-ce que tu fais encore dans l'ordinateur? Je range un peu, il y a un balagan ici. Tu sors de ma boîte tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ces emails de cette cousine-là? T'imagines un peu le balagan? Il c'est pareil. Si quelqu'un comprend ça, je dis, mais comment je vais faire? Il y a une réalité, il y a du temps, il y a de la matière, comment je vais faire? Je te donne la réponse. Il te dit, mais meirut, vite, il n'y a pas d'emprise du temps. Mais koar gadol, avec beaucoup de puissance. Si quelqu'un y vit les choses avec intensité, donc l'intensité c'est quoi? C'est que tu as enlevé toutes les écueils qui t'empêchent d'exister. Donc maintenant il n'y a rien qui peut te retenir, comme quelqu'un qui a une grande ambition, quelqu'un qui a une grande volonté, quelqu'un qui a un but clair, quelqu'un qui a un grand amour, quelqu'un qui a une grande cause. On ne peut pas les arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent quelque chose qui n'a pas de lien avec la matière. Donc ils traversent la matière. Donc rien ne peut les arrêter. Comment on appelle ça? Ushmartem et Amatzot. C'est ce qu'il dit. Bemeirut, vite. Bekoar Gadol, avec une grande force. Hatchen Kanaikouv, jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. Qu'est-ce qui va s'opposer à l'énergie pure? Rien. C'est pour ça que la Torah demande toujours à un homme de lutter contre sa petitesse, contre ses incapacités, contre son moi. Parce que ce qui te limite, c'est ta définition. Donc enlève la définition. Allez, trace. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Pareil dans tout, pareil avec les autres, pareil avec n'importe quoi. À chaque fois que tu veux te rapprocher de quelque chose, il faut enlever les obstacles qui t'en séparent. Donc qu'est-ce qui me sépare de l'autre? L'amour propre, je l'enlève. Qu'est-ce qui me sépare de Dieu? La matière, je l'enlève. Qu'est-ce qui me sépare de la réussite? La mesquinerie, je l'enlève. Qu'est-ce qui me sépare de l'argent? La flemme, je l'enlève. Donc à chaque fois que tu enlèves ce qui te sépare de quelque chose, eh ben tu l'atteins. Ah, tu te demandes comment? C'est marqué, vite. Tu ne laisses pas d'emprise au temps. Koar Gadol, une grande force. Hatchen Ikuv, jusqu'à ce qu'il n'y a pas de coupure. Et comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Ushmartem et Amatzot. D'accord? Maintenant, regardez la Mechilta, comment elle a appris ce pasouk. Amar Rabbi Ishaya. Al tikre Ushmartem et Amatzot, et là Ushmartem et Amitzvot. Vous avez remarqué que le mot matza, oui, le mot matzot, il s'écrit même tzadé, vav, tav. Le mot mitzvot, il s'écrit pareil. Maintenant, quand on veut le lire mitzvah, on met deux vav. Mais au pluriel, c'est mitzvot, ça s'écrit pareil. Donc pourquoi le mot matzot et le mot mitzvot s'écrit pareil? Maintenant, dans la Torah, c'est marqué Ushmartem et Amatzot. C'est la paracha qui parle de la fabrication des matzot et l'obligation qu'on a de manger les matzot le soir de Pessah. Donc c'est marqué Ushmartem et Amatzot. Ils sont venus les Chachamim, ils ont dit, écoute, ne lis pas Ushmartem et Amatzot, tu garderas les matzot, mais tu liras Ushmartem et Amitzvot. Tu garderas les mitzvot. Alors de là, il a pris. Kederer she'en Marmitzim et Amatzot, car et Marmitzim et Amitzvot. Et là, imba'a mitzvah leyadecha, aseota miyad. Regardez ce qui est marqué ici. De la même manière qu'on ne doit pas laisser les matzot fermenter, de la même manière on ne doit pas laisser les mitzvot fermenter. On laisse les mitzvot fermenter. Mais, quand une mitzvah se présente à toi, fais-la! Rabotai, dès qu'on a coupé le morceau de pâte, dès qu'on a mis l'eau et la farine, c'est fini, mon frère. Tant que la matzah ne sera pas passée au four, tu es comme ça. Il faut finaliser. Alors, la Torah, tu poses la question, tu dis, attends, d'où les chachamim, ils se sont permis d'interpréter une chose qui n'est pas écrite dans la Torah? Dans la Torah, c'est marqué, Ushmartem et Amatzot. Eux, ils ont dit, Ushmartem et Amitzvot. Attends, c'est pas écrit, oh, c'est un peu facile, là. Comment ils peuvent se permettre une chose pareille? Donc eux, ils ont compris, en vérité, que le message de la matzah, c'est la mitzvah. Et que ça fonctionne sur le même mode que la mitzvah. C'est normal, regardez. Si je venais vous dire, tu vois, la symbolique physique de la mitzvah, c'est la matzah. Donc la matzah, c'est la réalité physique de la mitzvah qui, elle, est spirituelle. Or la mitzvah, elle fonctionne sur les mêmes modes que la matzah. Pourquoi? Parce que regarde, quand tu as une mitzvah qui vient chez toi, il y a une mitzvah, il y a Ani, il tend la main, il y a des téfilines, tu te lèves le matin, tu vois tes téfilines. Alors tu te dis, je l'aimais pas, à quoi ça sert, pourquoi faire, Dieu est grand, Dieu existe-t-il, j'attends d'aller au séminaire, je verrai au cours du mardi s'il en parle. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Du Hametz. Tu es né dans une famille juive, par malheur. T'as fait ta bar mitzvah. Tes parents, ils ont un buffet. Il y a des téfilines dedans. Eh ben, mets-les! Parce que si vraiment tu devais pas les mettre, Hachem, il t'aurait fait naître en Bretagne, chez Christian et Marie, de la Croix. Vous connaissez la famille? J'attends que quelqu'un vienne vérifier qu'à Quimper, il n'y a pas un Christian de la Croix. Tous les mardis, j'attends, personne ne me dit. Bon. Donc, on lui donne un peu de mérite. Qu'est-ce qu'on disait? Si Hachem il avait voulu, il t'aurait fait naître à Quimper chez Christian et Marie de la Croix, sans téfiline, sans buffet, sans rien. Maintenant t'es là, tu dis bon, moi je suis juif. Pff, Et en plus, ils m'ont obligé à faire la bar mitzvah. La Brit Mila, ils m'ont pas demandé. Bon, mais la bar mitzvah, ouais. Et j'ai une paire de tefillin devant moi. Alors je dis, oh oui, ou oh non, ou oh quand, ou oh comment, avec qui, pourquoi, pour faire plaisir à qui, pour faire comment, pour faire... T'es en train de faire du hametz. T'as une pâte. Pétris la pâte. Cuis ta matzah, mange ta matzah. Comme la mitzvah. Rabota, vous avez pas remarqué qu'une mitzvah, à chaque fois qu'on la laisse, elle passe. Les gens y croient, ils disent, eh mais je les mettrai demain les tefillines. Oui, mais les tefillines d'hier. Tu peux faire toute la tchouva du monde. Les tefillines d'hier, tu les as pas mis. C'est tous les jours les tefillines. Tous les jours. Va demander à un diabétique qu'est-ce qu'il pense de la piqûre d'hier qu'il a pas fait. Il dit, bon, je l'ai pas fait, mais j'ai fait tchouva. Et le docteur, il dit, mais monsieur, vous ne l'avez pas fait. Les tefillines, c'est une piqûre. On est tous diabétiques de la Torah. Insuline, tous les jours. Tefillin, tous les jours. Kashrout, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Pourquoi un diabétique, il mange du sucre en dehors de la maison? Ah, moi, je fais kasher à la maison. Sur le rabbin, vous pouvez venir les yeux fermés, oui, et la bouche aussi. C'est pas possible. Mizva Abba Aliadeha Al Tahmitsena. T'as une mizva qui vient devant toi? La laisse pas pourrir, la laisse pas monter, la laisse pas. Oui, non, oui, non. Peut-être quelqu'un d'autre, peut-être moi, peut-être ma soeur, peut-être mon frère. Vas-y! Il t'a demandé à toi, tu peux me rendre service? T'es sûr que je suis seul? T'as pas demandé à quelqu'un d'autre? Mais t'es là, toi, vas-y, lève-toi. Attends, là, il y a la finale de Coupe d'Europe. Des nullos contre les absents. J'ai pas envie de rater. Tu veux. Ici, c'est pareil. Si quelqu'un comprend ça. Quand à Kadosh Baruch Hu, il t'a donné une réalité physique qui s'appelle une épreuve. Oui. Et à Kadosh Baruch Hu, il t'a dit, écoute, la mitzvah, c'est quoi? La mitzvah, c'est comme une... C'est comme si tu disais, on va faire encore de la science-fiction. Imagine, j'ai de l'intemporel qui est caché dans un objet. Alors maintenant, si je casse la couverture de l'objet... Je dévoile une dimension intemporelle. C'est pareil. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce qu'on appelle les Nitzutzot. Les Nitzutzot, ce sont des étincelles qui sont dispersées à l'intérieur de la nature. Maintenant, nous devons réaliser les étincelles qui sont dans la nature. Par exemple, d'après la Kabbalah, pourquoi les Bnei Israël sont descendus en Égypte? Pourquoi Avraham est descendu en Égypte? Pourquoi Yaakov est descendu en Égypte? Pourquoi Yosef est descendu en Égypte? Pourquoi faire? Et les gens, ils disent, ah ben, parce qu'il y avait la famine! Je t'ai dit la Kabbalah, d'après la Kabbalah, c'est pourquoi? C'est parce que, là, il faut savoir que le pays le plus impur de tout le monde, c'était l'Égypte. Et il faut savoir que l'impureté se nourrit de la pureté. Donc il y avait des nitzutzot, des étincelles divines qui étaient dispersées en Égypte. Donc Abraham, il a été les chercher. Ce qu'il n'a pas réussi, Yosef, il a continué. Ce qu'il n'a pas réussi, Yaakov, Yosef. Et ensuite les Bnei Israël. Maintenant les Bnei Israël, ils devaient sortir avec toutes les étincelles divines qui étaient dispersées dans la Touma de l'Égypte. C'est ça le but de la sortie d'Égypte d'après la Kabbalah. Maintenant, tout le monde entier, il contient des éléments. Moi je prends une pomme, d'accord? À l'intérieur il y a une étincelle divine. Si je fais une bracha avec Kavana, je libère l'étincelle divine. Il y a une interaction qui va se faire entre l'étincelle divine, ma volonté d'exister, qui est Maneshama, et Dieu qui est dans la nature. À ce moment-là, il y a un choc qui va se faire et je fabrique de l'intemporel. À chaque fois que je fais une mitzvah, je fabrique de l'intemporel. Le cumul des intemporels, à la fin, ça s'appelle Olam Haba. T'as compris? C'est-à-dire que comment quelqu'un va au monde futur? Toujours les gens, ils se demandent, et le monde futur? Hein? Et le monde futur? Parlons-en du monde futur. C'est très simple. Un homme, il a été créé, donc il est matière. Puisqu'il est matière, il est condamné à mort. Maintenant, si un homme, il dépasse la matière et il dépasse le temps, il va continuer à exister après que son corps va disparaître. Comment s'appelle ça? L'au-delà. Mais puisqu'un homme est soumis au temps, la seule manière de devenir intemporel, c'est de dépasser le temps. Or, puisque le temps est dans la matière, donc quand un homme dépasse la matière, il dépasse le temps, il devient intemporel. Donc la mitzvah qui est là pour que tu apprennes à dépasser la matière, te permet de dépasser le temps et de devenir intemporel. Donc quelqu'un qui vit intensément, c'est quelqu'un qui va aller chercher l'intemporel qui est dans la matière. Mais si quelqu'un y vit de manière superficielle, c'est matière pour matière, finalité, matière. La matière retourne à la matière, résultat, matière. Olam Haba, dépassement de la matière. Mais quelqu'un va dire, mais comment on fait? C'est quel type de marteau qu'il faut faire pour taper à l'intérieur de la matière, pour faire sortir l'intemporel et se réaliser au travers de ça? La mitzvah. Or, comme dans la matzah, il y a le hametz et il y a la matzah. Oui, le hametz et yitzharara. La lutte contre l'yitzharara, la lutte contre la matière, la lutte contre l'orgueil, c'est que tu déchires l'enveloppe de la matière et tu récupères l'énergie d'Hachem qui est à l'intérieur de la matière. C'est une mitzvah. Donc quand c'est marqué « Ushmartem et Hamatzot », il faut bien garder les matzot. Les matzot, attention, les matzot, si tu les gardes pas, elles deviennent hametz. De la même manière, un homme dans la vie, il doit bien garder les mitzvot, parce que les mitzvot, si tu les gardes pas, c'est quoi garder la mitzvah? C'est quoi? C'est faire attention, c'est connaître les lois, c'est pouvoir les appliquer, c'est être en temps réel. C'est pas style 10 ans après, tu dis, écoute, à 23 ans, il faudrait quand même que je fasse la bar mitzvah. Aïe, 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 qu'est-ce qu'elle est devenue cette matzah? C'est en temps réel. Tac, 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 tac. Il disparaît. Il dit, moi, je suis prêt. J'ai étudié, j'ai appris, je suis prêt. Pourquoi je vous refais? Il a créé 0 à 13 ans, pas de mitzvot. De 13 à 20 ans, les mitzvot, mais pas de punition. À partir de 20 ans, les mitzvot et les punitions. Pourquoi? Parce que de 0 à 13 ans, tu rêves. De 13 à 20 ans, tu t'entraînes. À partir de 20 ans, jusqu'à 20 ans, tu fais des études. Tout est théorique. Quand tu rentres au boulot, c'est réel. Il y a une différence entre un dépôt de bilan en partiel d'économie et un dépôt de bilan dans une boutique. C'est pas le même prix. Donc Hachem, de 13 à 20 ans, il t'oblige à faire les mitzvot pour que tu t'entraînes. Tu t'entraînes. Mais il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de punition. On sera puni à partir de 20 ans. Donc si quelqu'un il a fait des bêtises, il fait tchouva avant 20 ans. S'il n'a pas fait de bêtises, bah au rabat. Et à part ça, il s'est construit. Donc quand on te dit « Ushmartem et ta matzot »,« Ushmartem et ta mitzvot », c'est exactement le même attachement. Regarde, la même vitesse, le même koach, la même force pour produire la mitzvah, c'est la même que pour produire la matzah. Qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu te produis toi-même. Parce que qu'est-ce que tu pétris à travers la réalité? Toi-même. Qu'est-ce que tu pétris à travers ta remise en cause? Toi-même. Qu'est-ce que tu pétris à travers le travail que tu fais? Toi-même. Donc c'est toi la matzah. Maintenant tu fabriques cette matzah. Cette matzah, tu es en train de devenir. Moi je dis toujours, l'année prochaine, tu feras une meilleure matzah que l'année dernière. C'est comme à Yom Kippour. Si tu vois à Yom Kippour, tu regrettes les mêmes choses, tu ressens les mêmes choses, et quand tu as fini Kippour, tu as la même impression que l'année d'avant. Alors tu dis, pourquoi tu as vécu une année de plus? Il fallait mourir l'année dernière. Ainsi les gens disent, oh mais quand même, faut pas parler comme ça. Non, franchement, de toi à moi. Je parle pas que tu vas faire de la peine à tes parents, que dommage pour les cicaves. Non, je te dis, vraiment. Franchement, si la vie c'est une répétition, tous les ans, t'es là, tu reviens à Kippour, tu dis, bon, je t'achève, pardonne-moi, je recommencerai plus. Alors Hachem dit, t'as déjà dit ça l'année dernière. Oh, ça va, oh. Donc normalement, un homme, il fait pas le même Kippour l'année d'après par rapport à l'année d'avant. Un homme ne fait pas le même Pessah l'année d'après par rapport à l'année d'avant. Tu relis la Gada. Oui. Manishtana. Pourquoi on commence par Manishtana? Pourquoi? C'est quoi Manishtana? Qu'est-ce qui a changé? Parce que toi aussi tu vas dire, dis-moi franchement, de toi à moi, Manishtana. Elle est bonne celle-là. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que qui c'est qui demande ça? C'est le petit. Il demande à qui? Aux adultes. Parce que l'enfant, il n'est pas censé changer, lui. C'est l'adulte qui est censé changer, puisqu'il a la conscience. Donc l'enfant, il regarde les adultes, il leur dit, écoutez les gars, quand est-ce que vous allez faire teshuva? Manishtana. Manishtana de l'année dernière. Quand est-ce que vous allez y aller, là? Oh, mais je comprends, vas-y doucement et tout. C'est plus une matza, c'est un pain de campagne. Tabouza, comme ça. Avec les bulles. Il s'est pareil. Toi, tu ne veux pas faire du hametz. Tu vas fabriquer une bonne matzah. La matzah, c'est toi. On a dit, il y a un travail à faire, la recherche du hametz. Pour ensuite, pour pouvoir aborder la matzah. Rabotai, si Hachem, il a dit que pour arriver à la Géoula, ouais, C'est-à-dire, le 15 Nissan, manger la matzah. Et là, il faut manger la matzah. Je vous ai dit que manger, c'est faire corps avec la chose. Je vous ai dit que le hametz, on n'a pas le droit de faire corps avec le hametz, avec toute la symbolique du hametz. On doit faire corps. Il y a une mitzvah de faire corps avec la matzah le soir de Pessah. Pourquoi c'est Hayav Karet? Je dis, mais c'est normal. Karet, c'est quoi? Quelqu'un qui s'enlève totalement les chances de se réaliser, il n'existe plus. C'est pas le même qui existe, puisqu'il s'enlève les chances de se réaliser. Or, un homme, il a deux axes de réalisation. La Kedusha d'en bas, on fait Brit Mila, ouais, et la réalisation complète de soi, l'entité, c'est la matzah. Donc si quelqu'un ne mange pas la matzah le soir de Pessah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas compris que Dieu, il a laissé une porte ouverte pour la délivrance, qui s'appelle le soir de Pessah, mais que pour être délivré le soir de Pessah, puisque Mitzrayim, encore une fois, c'est Mitzrayim, ça veut dire l'Égypte. Mais Metzarim en hébreu, ça veut dire les limites. Donc Yetziat Metzarim, ça veut dire que la sortie des limites. Donc Dieu, il a fixé un soir qui s'appelle la sortie des limites. Et que ce soir-là, on va sortir de nos limites. Mais comment on sort de nos limites? Parce qu'on a atteint l'entité. Donc le soir, on mange la matzah. Mais c'est pas simplement, on va faire l'halakha, on va bien manger notre matzah, on va manger nos 30 grammes, 5 fois les 30 grammes, hein, d'après ceux qui font bien l'halakha. C'est pas évident, hein. Et le maror et tout ça. Donc, quand moi je vais essayer de réaliser ce que j'ai appris, de réaliser, de devenir ce que je suis. Donc moi, je me suis débarrassé du hametz pendant 30 jours. Après, j'ai fabriqué une matzah. Je peux pas le faire quand il y a du hametz. Donc maintenant, j'ai fait ma matzah. Mais le soir, rabotaille, de la même manière que c'est important de brûler le hametz quand on l'a ramassé, c'est important de manger la matzah quand on l'a fabriqué. Il y a trop de gens qui fabriquent la matzah, c'est-à-dire que intellectuellement, psychologiquement, ils ont un potentiel extraordinaire, mais ils ne le réalisent pas. Ils ne mangent pas leur matzah, ils ne sont pas eux-mêmes. Donc Hachem, il a dit, écoute, c'est difficile toute l'année, je t'ai donné une soirée pour ça. Une soirée complète pour que tu deviennes ce que tu as appris, pour que tu réalises ton être intérieur, pour que tu deviennes la matzah et tu fais corps avec la matzah. Tu manges la matzah. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de sentir le goût de la matzah. Il y a une mitzvah spécifique de manger la matzah. Parce que ce soir-là, tu ne pourras pas atteindre la geoula, tu ne pourras pas atteindre la délivrance si tu n'es pas entier. C'est comme si les gens ils disent « Oh, ma chère, ma chère, ma chère. » Mais attends, excuse-moi, quand ma chère va arriver, tu ne pourras plus évoluer. Donc tel que t'es, tu vas rester. Ça t'intéresse d'être comme ça? Comprenez ou non? Les gens, ils croient que le Mashiach, c'est la thérapie collective. Allez, que tous les nuls se rapprochent de moi. Et je vais faire de vous des tzadikim. Hey, comme tu es, tu seras. Tu t'intéresses ou non? Alors tu dis, attends, deux minutes. Quand tu fais une interro, tu dis au prof, ma parole, ma vie pour une demi-heure. Ouais, c'est juste pour une interro. Hein. Mashiach, il va venir. Baruch HaShem, on l'attend tous les jours. Mais si tu as gagné encore une journée pour avancer, vas-y, gratte. Mais si quelqu'un ne fait rien, il dit alors qu'est-ce qu'il attend? Hein? Qu'est-ce qu'il attend pour venir? Mais il vaut mieux pas qu'il vienne, mon frère. Il vaut mieux pas. Toi, tu as fait tes études aux États-Unis. Ton père, il se crevait la santé pour t'envoyer l'argent du Maroc. Et tous les mois, il t'envoie tes 4 000 $. Et tous les mois, t'as la meilleure école. D'accord? Alors tes copains, ils te disent, eh, dis-moi, ton père, il vient jamais te voir? Il dit, heureusement qu'il vient pas me voir. Toute la journée, je suis au flipper. L'après-midi, je suis à la piscine. Le soir, je suis en boîte de nuit. Et lui, il s'esquinte le sang pour m'envoyer les 4 000 $. Et moi, je les brûle avec mes copains et mes copines. Heureusement qu'il va pas venir. Mais si ton père, il débarque du Maroc. Il demande, excusez-moi, Harvard, c'est où? On lui dit, c'est ici. Vous connaissez pas un petit Abitbol? Un petit Maurice, il paraît qu'il en maîtrise. Maurice Abitbol en maîtrise? Attendez, on parle bien du même. Momo, du Palladium. Le roi du bowling. Le musclé de la piscine, le Sylvester du flipper, c'est bien lui. Alors là, le fils il regarde le père regarde le fils, et il y a une espèce de développement d'Archuma dans l'espace. Intensité maximum. Rabotai, c'est bien, il faut que ma chère vienne, d'accord? Mais il faut pas qu'on ait honte quand il arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait? On travaille. Or vous savez qu'il peut venir le soir de Pessah, ma chère. Alors, compte à rebours, la NASA, pour tous ceux qui ne voudront pas être nazes le soir de Pessah. D'accord? Voilà.